Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, document d'archives du 15 septembre 1993, diffusé le dimanche 2 novembre 2014 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Bonsoir, chers auditeurs. Alors, d'abord, je voudrais vous faire une lecture. Bonsoir, mademoiselle Despostes. Bonjour, monsieur. Voici ma facture de téléphone. Elle se monte à 503 francs 18. C'est raisonnable. Mais la note précédente se montait déjà à 503 francs 18. Cette amusante coïncidence vous sera expliquée par France Télécom. Télécom ou Télécom? On lit les deux sur les documents. À votre goût, question suivante. Combien d'argent y a-t-il sur mon CCP? Un instant, clic-cloc, vous êtes débiteur de 1503 francs 18. Comment? Mais on m'a fait un virement bancaire il y a 3 jours. Ce malheureux contretemps vous sera expliqué par votre centre de chèques postaux. Je les appellerai volontiers d'ici, mais je remarque à l'instant que votre étrange bureau de poste n'est équipé que d'un seul téléphone public. Et 7 personnes font la queue devant. Apprenez, monsieur, que la Poste et France Télécom, ou Télécom, constituent désormais 2 sociétés différentes. Et qu'au prix où ils facturent leur poste, nous ne pouvons pas vous en offrir plus d'un. Ma raison vacille, mademoiselle. Et pourtant, il me revient que j'ai acheté récemment un combiné téléphone répondeur à 300 francs de moins que chez Darty, que chez son jumeau chez France Télécom, ou Télécom. C'est la concurrence, c'est la vie. Vous avez encore des questions? Non, merci. Rien qu'une petite lettre pour les États-Unis. Donnez-moi donc un timbre à 4 francs 30, je vous prie. Ça n'existe pas, monsieur. Je vous propose un timbre à 4 francs 20, accompagné d'un timbre à 10 centimes. Mais bon sang de bonsoir, ND2DM. Ça doit vouloir dire nom de Dieu de merde, je pense. Mais j'ose pas traduire parce que, comme on est sur Radio Courtoisie. Pourquoi éditez-vous 250 timbres différents chaque année et jamais un timbre du montant que vous-même demandez plus fréquemment pour l'étranger? Calmez-vous, monsieur. Pourquoi criez-vous soudain? Vous êtes devenu fou? Ah, ça, c'était le récit d'un entretien au Télécom, ou Télécom, hein, on dit comme on veut, rapporté par monsieur Patrick Goffman. Alors, Patrick Goffman est ce garçon absolument délicieux qui est communiste et, pour des raisons, je le répète, obscures, doublement juif. Il dit toujours, je suis communiste et doublement juif. Alors, je sais pas pourquoi il est doublement juif, je sais pas du tout pourquoi il est communiste parce que, à mon avis, il est pas très communiste. Te dire. En tout cas, il a parfaitement compris comment fonctionne le service public en France aujourd'hui. Et vous venez d'avoir un exemple du fonctionnement de ce service public. C'est-à-dire qu'on n'y comprend rien. C'est d'ailleurs pas un service public. C'est une espèce de machin truc qui est destiné à piquer du fric. Alors, c'est pas Patrick Goffman que j'ai en face de moi. C'est quelqu'un qui lui ressemble et qui pourtant n'est ni doublement ce que Goffman est, ni à moitié ce que Goffman prétend être. C'est Roger Mine. Bonsoir, Roger.
Bonsoir Serge.
Alors Roger Mine, c'est l'auteur qu'on connaît tous, l'auteur de Rumeurs sur Andromède et d'un autre livre tout aussi important qui s'appelait Dimension Première. Mais enfin, celui qui est disponible en ce moment le plus facilement, c'est Rumeurs sur Andromède et qui est un de ces livres difficiles à trouver parce qu'ils sont pas forcément à la portée de toutes les bourses.
Il est presque épuisé.
Il est presque épuisé, c'est une chance.
Oui, il est à la portée de toutes les bourses, il coûte 100 francs.
Oui, mais à condition d'avoir l'argent pour aller jusqu'à la librairie où il est en vente. C'est ça la difficulté. C'est un livre d'aphorismes. Et alors, Roger a l'habitude de dire, les aphorismes, ça ne se discute pas. Donc, je vais vous en donner quelques-uns. J'ouvre au hasard, hein. J'ai vu ceci, que tous ceux qui réussissent sont des gens qui, dans l'exercice de leur fonction, ne disent jamais la vérité.
Ben oui, comme je te disais, on se dit-tu, puisque dans la vie, on se dit-tu depuis que tu as fait des critiques splendides sur Rumeurs sur Andromède et la Dimension Première, donc on va pas
être
hypocrite au micro comme Michel Drucker et compagnie. On va se dire-tu. Le livre est toujours... il est encore en vente, mais les aphorismes, j'ai dit ça, je te l'ai dit un jour au micro ici même, c'est difficile. Cioran a dit l'aphorisme, Le maître de l'aphorisme est le verbe. À partir du moment où tu as dit quelque chose, le commenter toi-même, ça en coupe l'humour d'abord. S'il y a de l'humour, en général, j'essaie de mettre
un peu
d'humour.
C'est comme expliquer une blague.
Voilà, c'est comme expliquer une blague. Merci.
Et il y a, alors parmi les innombrables aphorismes de ce livre, il y en a un qui me plaît particulièrement, c'est celui-là. L'optimiste est un monsieur qu'on n'a pas mis au courant.
Moi, je peux lire.
Oui, Victoria.
Dans la vie, ce sont les conservateurs qui ont raison. Je me sens visée.
Ça m'aurait étonné. Alors,
ah oui, des enfin, conservateurs
bon,
ont raison.
Je dirais pas.
Je dis une autre. On est libre, comme par exemple la démission de M. de Beketch. On est libre, on fait ce qu'on veut, mais on a quand même intérêt à la mettre en veilleuse.
Bon, ça va, alors j'arrête.
Je suis heureux de vous rire.
C'est très joli, ça, Victoria, ce que vous venez de faire. Merci, bravo.
Merci beaucoup.
Alors, donc, Roger Mine. Alors, on va donc inaugurer... je ne dis pas que ça se reproduira tout le temps, ni souvent, ni rien, mais ce soir, j'avais envie de recevoir Roger parce que... Bah, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'il a plein de choses à dire, parce que c'est un auteur... d'un livre, c'est l'auteur d'un livre dans lequel il y a plein de belles phrases en bon français. Donc c'est déjà rien que ça, il mérite qu'on lui donne la parole. La deuxième raison, c'est que c'est un ami. Et ça, c'est parce qu'on est, on s'est rencontrés puis on s'aime bien. La troisième raison, c'est parce qu'il trouve que le Libre Journal de la France Courtoise est un très bon journal.
C'est
et
vrai.
Là, je dois dire que, mais je peux vraiment pas dire le contraire. Et si je disais le contraire, je serais un hypocrite. Et puis voilà. Donc ça fait trois bonnes raisons de le recevoir.
Oui,
et puis la quatrième raison, c'est qu'il a un œil un petit peu particulier sur l'actualité, parce qu'il faut dire, Roger, que tu vis assez souvent dans un proche étranger, qui est la Confédération Helvétique.
Oh, j'y passe des vacances.
J'y passe des vacances, mais enfin, disons que
j'aime bien la Suisse. Parce
que j'ai la chance de pouvoir prendre beaucoup de vacances.
Je trouve qu'elle est bien gérée politiquement, voilà. C'est tout, par rapport aux autres.
Alors, ça te donne, sur la situation française, le point de vue, non pas de Sirius, mais enfin, disons, de Mars ou de...
D'Andromède.
Ou d'Andromède, voilà. Et par conséquent, c'est intéressant de voir, ou d'entendre plutôt, ce que quelqu'un qui a le point de vue d'Andromède peut dire sur notre... sur notre situation. Alors, parmi les autres invités de ce soir, eh bien, vous étiez prévenus, nous recevons Sylvain Lieuzeau et Olivier Bouillon, qui vont nous parler des BBR, parce que, pour dire les choses très clairement, on va parler des BBR. On en a parlé la semaine dernière, on va en parler cette semaine, et on va en parler la semaine prochaine. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, encore une fois. Une de ces raisons, c'est parce que on n'en parle pas ailleurs. Que ça devrait suffire à nous en faire parler plus qu'ailleurs. Ce qui est pas difficile, puisqu'on n'en parle pas du tout. Nous, on en parle un petit peu. Donc, c'est toujours plus. La deuxième raison, c'est que, en gros, on est content que le BBR ait lieu cette année sur la pelouse de Reuilly, à l'endroit où se passe d'habitude la Foire du Trône, pour simplifier. Hein, c'est à peu près ça, non ?
Et aussi, où se tenait jusqu'à cette année la fête de FO. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on n'y soit pas, quoi.
Oui, c'est la fête des vrais contre la fête des faux.
Voilà.
Et puis, c'est bien ça, c'est Roger, ça te fait très bien voulu.
Tu as fait mieux.
Mais... Oui, mais enfin, écoute.
Et Alain Sanders et ADG font encore mieux. Et moi, je fais encore pire. Enfin, c'est toléré.
Et puis, la troisième raison, alors qui est carrément intéressée d'une façon sordide, c'est que je sais très bien que plus j'inviterai les organisateurs des BBR, et plus on aura un gros stand... au BBR pour présenter l'émission du mercredi. Je ne dis pas, Radio Courtoisie, par principe, ne participe à aucune réunion politique. Mais chaque participant, chaque directeur d'émission de Radio Courtoisie a une liberté totale. Et ma liberté totale, elle va quand même assez dans le sens de ce que peut penser Sylvain ou de ce que peut penser Olivier. Je crois qu'on n'est pas très éloigné d'avoir les mêmes opinions. Et donc, je leur dis, vous allez me recevoir dans votre belle fête de famille. Ils me disent, mais oui, bien sûr.
Voilà. Ou alors, pour continuer dans l'aphorisme, vous êtes tellement contre que vous êtes tout contre.
Tout contre, oui. Non, je trouve que... j'ai assez dit ce que je pensais de la démocratie en général. Disons que dans l'ordre de la démocratie, si vraiment il faut être démocrate, alors c'est cette solution-là qui me paraît la meilleure. Quoi. Hein, voilà. Et puis, ensuite, on recevra... Ah, je vais pas vous le dire. Là, il y a une surprise. Je pense, comme on dit dans le Midi, qu'il y en a deux ou trois qui vont être de cul. On dit ça dans le Midi. Et je suis de cul. C'est-à-dire, je suis surpris. Ensuite, on recevra, normalement, Ben, alors on n'est jamais sûr. Hein. Marie-Josée de Bravoura, mais c'est pas certain.
Excellente collaboratrice du Cri de la Chouette.
Alors le Cri de la Chouette,
on en parlera.
Ensuite, on recevra nos amis de Militaria, mais c'est pas absolument certain non plus, parce que j'ai beaucoup de peine à trouver une organisation sérieuse dans l'émission. C'est-à-dire que, en gros, entre les gens que j'invite et moi, il y a une espèce de... comment dirais-je, de différent sur les dates. C'est-à-dire, moi, je crois toujours que les dates, c'est ça, et ils pensent que toujours que les dates, c'est d'autres. Mais on est d'accord sur le fait qu'ils sont invités, quand même. Et puis, on recevra également Étienne Duchalard et Guillaume Dabadie, qui viendront nous présenter, nous parler de la marche sur la vie de Renaissance catholique, qui est une chose très... la marche pour la vie de Renaissance catholique, qui est une chose très importante. Et puis, voilà. Et puis, j'ai dit Cécile Adem.
Non.
Alors, on va recevoir Cécile Adem. Alors, bah Marc Dum, c'est évident, mais Marc, il fait partie de l'équipe et on le reçoit plus, il est là. Mais Cécilia, elle est maligne, Cécilia. Parce que, au cas où on l'oublierait, elle s'est fait précéder par des bouquets, mais admirables. Il y a 5 ou 6 bouquets dans le studio qui sont des œuvres d'art, des vraies œuvres d'art. Ça sent bon, ça embaume les studios et tout. On va d'ailleurs probablement s'évanouir parce que ça sent
bon.
Non, mais c'est bien. Voilà. Alors, je disais donc Roger Mine. Et Roger Mine, qui est l'auteur de plusieurs livres d'aphorismes, est aussi, comme moi, un passionné d'actualité. Donc, on va parler de l'actualité. Et notamment, on va parler d'une actualité qui me fait beaucoup rigoler. C'est la paix. Parce que c'est la paix, maintenant. C'est fini, la guerre.
La paix.
La paix.
Comme il dit.
La paix entre... Qui est qui ? Déjà, j'ai oublié.
Je crois que c'est entre les Arabes et
les... Ah voilà, c'est ça. Non, pardon, c'est pas entre les Arabes et les Juifs, c'est entre le gouvernement israélien et l'OLP.
Oui, c'est vrai.
Alors, est-ce que ça t'inspire une réflexion, Roger, cette...
Eh bien, oui, là, tu me prends un peu de court, parce que c'est une chose que j'avais complètement oubliée. Et il y a quand même 3 ou 4 jours que ça s'est passé. Mais j'ai trouvé extraordinaire et merveilleux que M. Bill Clinton se mette sous les projecteurs d'une façon étonnante, alors que à côté de lui, derrière Yasser Arafat et M. Rabin, il n'y avait pas le ministre des Affaires étrangères d'un pays qui s'appelle la Norvège, totalement inconnu des États-Unis, bien entendu. Si vous demandez à un Américain où est Bruxelles ou Amsterdam... Il ne le sait pas plus. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'un Français ne connaît la capitale du Venezuela. Je ne suis pas en train d'accuser les Américains. Mais monsieur le ministre des Affaires étrangères de Norvège, qui a fait tout le boulot, dans le secret le plus absolu depuis 6 mois, à ma connaissance, n'a pas été remercié.
Si justement, il a été remercié.
Oui, il a été
C'est
remercié.
C'est ça le problème.
Alors, je ne veux pas aller... Jean Ferré, par exemple, lundi, toujours aussi implacable, comment dire, dans ses persiflages glacés, a demandé, avec cette fausse naïveté qui caractérise Jean Ferré, s'il était vrai que Bernard Tapie allait racheter Euro Disney. Moi, je me suis plié en deux quand j'ai entendu ça. Puis je me suis dit, non, ça ne sera pas nécessaire. Je crois que ce ne sera pas nécessaire. Mais ça rejoint ce que je disais il y a un instant, c'est que M. Clinton est vraiment le maître du monde et a décrété que cette paix était la sienne. L'ONU, donc, il a prouvé une fois de plus que l'ONU lui appartenait, puisque l'ONU n'a pas été du tout dans le coup, pardon, de parler ainsi. Et alors j'ai noté autre chose, c'est que M. Arafat...
Non mais attends, je voudrais...
Je t'en prie.
Si tu veux, je t'arrête juste. Parce que tu viens de dire deux choses...
On est là pour dialoguer.
...qui sont étonnamment importantes, et tu as glissé là-dessus avec une discrétion de violette, c'est que, effectivement, l'accord a été souscrit par les deux parties grâce à l'intervention d'un ministre scandinave...
Oui.
...qui a joué un rôle capital là-dedans, et qui a totalement disparu au moment de la signature... Mmh. Ensuite, ça s'est passé sous l'égide du machin dont le big boss s'appelle Monsieur Boutros-Ghali,
voilà.
Qui était même pas là à Washington. Mm-hmm. Et on a vu arriver ce grand crétin
gommeux, ce gommeux blanchâtre, dont je ne citerai pas le nom parce que je veux pas avoir de procès avec lui, mais enfin, c'est quelqu'un, c'est un nom dans le genre de Clinton,
Bill.
Qui savait même pas de quoi il retournait. C'est extraordinaire. Et alors, on a vu, monsieur Arafat tendre la main à monsieur Yitzhak Rabin, c'est ça?
Oui, je crois que c'est son nom. Il a tendu la main à tout le monde, d'ailleurs.
Il a tendu la main, et Yitzhak Rabin, qui n'est pas tombé de la dernière averse, a dépassé de 5 dixièmes de seconde le délai de courtoisie avant de saisir la main qui lui était tendue. Et tout ça n'est pas gratuit du tout. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, comme on vit dans un univers médiatique, donc un univers de symboles à l'usage des crétins, parce que les médias sont porteurs de symboles primaires à l'usage des crétins, je dis bien des gens, qui ont besoin d'avoir... il faut que je me calme. Ah ben non, on peut dire crétin quand on dit pas le nom derrière. Si on dit le nom, là on est condamné. Mais autrement, on peut dire crétin 60 fois du moment qu'on dit pas de nom derrière. Enfin, pas de nom de gens qui vont vous poursuivre. Et donc, on a assisté à cette scène tout à fait étonnante qui montre que ceux qui ont réellement organisé cet accord, maintenant ils sont jetés à la poubelle. Ceux qui n'y sont absolument pour rien, comme M. Clinton,
sont sous les projecteurs.
Il est en première ligne. Mais accessoirement, il faut bien reconnaître que cet accord, il faut quand même dire les choses, et ici on ne pratique pas la langue de Boé, cet accord n'a aucun sens. Il est dérisoire, c'est un accord. Je disais tout à l'heure, hors micro, c'est à peu près comme si Monsieur Balladur disait, écoutez, on a trouvé une solution pour sortir la France du chaos économique du chaos économique, oui. On a signé un contrat avec la CGT. Il y aura plus de grève. C'est à peu près ça.
Oui.
La CGT, ça n'existe simplement plus. Eh bien, l'OLP a à peu près la même existence que la CGT à l'échelon international. Et quand on signe un contrat parce que c'est un contrat privé, de droit privé, entre une partie du gouvernement israélien et l'OLP, c'est exactement comme si M. Balladur passait un contrat avec la CGT pour qu'il n'y ait plus de grève en France. Il faudrait quand même rappeler que l'OLP n'existe plus comme centrale palestinienne. Elle a été rejetée par la quasi-totalité du peuple palestinien. Elle est abandonnée, et pour cause, par ses financiers principaux qui étaient l'Union soviétique, ou le KGB plus exactement, et qui en ce moment a des difficultés à financer qui que ce soit, puisqu'il n'arrive même pas à payer ses propres échéances. Et puis par les pays arabes, qui ont cru très malin de couper dans la finesse israélienne de la guerre du Golfe, Arafat ayant pris la position contraire n'a plus un sou de la part des États du Golfe. Donc l'OLP est fauché, ils n'ont plus un rond. Et Israël leur a dit à ce moment-là, maintenant que vous êtes fauchés, que vous ne représentez rien, que vous n'avez plus de soutien, vous n'avez plus d'influence, et vous n'êtes plus qu'un vieil épouvantail déplumé, on va signer un accord avec vous. Alors, ils ont sauté sur l'occasion.
Alors je vais reprendre ce que je disais, parce que ton interruption suivait exactement le cours du fleuve. J'ai remarqué deux ou trois autres petites choses à ce sujet que tu as soulevées. C'est amusant, je lis la presse, toi aussi. J'ai remarqué que M. Arafat, à la fin de son discours devant 5000 personnes sur la pelouse, a dit « Thank you, thank you, thank you, Mr. Clinton », trois fois. Il n'a pas dit « Merci, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Norvège ». Mais quand même, dans sa lettre de reconnaissance d'Israël à M. Rabin, il terminait sa lettre par « sincerely », ce qui, en anglais, se traduit en français « Je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de ma haute considération ». En anglais, ça se dit « sincerely ». Et parfois « sincerely yours ». Mais là, il n'a pas mis « yours » parce que « votre », bon. Dans la lettre de M. Rabin, il n'y a pas « sincerely ». J'ai remarqué cette chose, c'est tout. Je ne veux Il n'y a aucune arrière-pensée.
Il n'y a pas factieux non plus, mais c'est non, limite quand même.
Non, Serge, ça c'est toi.
Non, non, mais ça, personne ne comprend ce que
mais
je dis.
Mais Monsieur Rabin ne dit pas « sincerely ». Monsieur Yasser Arafat dit « sincerely ».
Moi, je vais te dire, le fond de ma pensée sur cette histoire est très simple. C'est que c'est une formidable... Ce que j'écris dans mon libre journal, tiens, dans le numéro 13, vient de paraître... Je vous en recommande la lecture.
Je l'ai vu. Il est meilleur que les 12 précédents.
Bah, chaque numéro, si chaque numéro est meilleur que les précédents. Je dis, c'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes, ce traité de paix. Et à un point comique, c'est-à-dire que il est évident que Israël a parfaitement compris que l'OLP n'existait plus. En réalité, en tant que puissance réelle, l'OLP n'a plus aucune puissance. L'OLP n'a plus de troupes. L'OLP n'a plus d'argent. L'OLP n'est plus un mouvement terroriste, donc il fait plus peur. Mais c'est un vieil épouvantail déplumé, comme je le disais tout à l'heure. Et maintenant, on a trouvé le nouvel ordre mondial a fabriqué un nouvel épouvantail qui s'appelle les fondamentalistes, c'est-à-dire les Hezbollah et le groupe Hamas.
Voilà.
Autrement dit, les musulmans intégristes, fondamentalistes, etc., qui sont les nouvelles terreurs. Alors, comme on n'a plus besoin du camarade Arafat pour jouer les porteurs de bombes, et comme on n'a plus besoin de lui pour servir de bouc émissaire... Quand les services spéciaux israéliens organisent des faux attentats, comme ça s'est passé partout dans le monde, chaque fois qu'il s'agit de remobiliser l'opinion publique internationale autour de la cause d'Israël, eh bien, on utilise maintenant les groupes Hamas, le groupe les Hezbollah et tout. Et vraiment, dans ce cadre-là, le groupe communiste, parce que c'était ça, en fait, le groupe l'organisation soviéto-color de Monsieur Arafat ne représente plus rien, elle ne fait plus peur à personne, ça fait rigoler tout le monde. L'autre avec son espèce de linge de nappe en Vichy sur le coin de la tronche, avec sa barbe de deux jours, à mon avis, il a dû prendre des cours.
Elle est calculée, d'ailleurs, c'est difficile.
Il avait, il avait pris des cours avec... Pourtant, quelqu'un dont on ne pouvait pas penser que c'était son ami, c'était monsieur... Comment il s'appelait ?
Gainsbourg.
Et après, des collègues, c'est des mecs, ils ont une technique pour avoir des barbes de deux jours tous les matins.
Oui,
je ne sais pas comment ils font. Personne ne peut faire ça. Mais ils y arrivent. Et Arafat, c'est superbe.
Mais je voudrais ajouter, je voudrais confirmer ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une autre goujaterie, puisqu'on parlait de politesse diplomatique... C'est que, à l'issue de cette cérémonie extraordinaire, dont le monde parle encore et dont tout le monde tremble, on ne voit que ça tous les jours pendant, sur toutes les chaînes, Monsieur Clinton a retenu, bien entendu, à déjeuner, eh ben, je mets trois points de suspension, il a retenu à déjeuner Monsieur Rabin, mais Monsieur Arafat n'était pas à ce déjeuner. C'est peut-être parce qu'il avait la nappe sur la tête, ça je ne sais pas.
Il est parti pique-niquer.
Il est parti. Et
avec son
kéfier.
Enfin, en tout cas, bon, il avait son
joli
chapeau.
Pour moi, c'est de la goujaterie. Je ne suis pas pour un parti ou pour l'autre. Je suis français, parisien du nord de la France. Je ne suis absolument pas pour ou contre l'un ou l'autre, mais ça, c'est de la goujaterie, à mon avis, et ça ressemble bien à une situation que nous connaissons tous. Il faut pas oublier une chose, je fais un scoop ici, que personne n'osera jamais dire à la radio. Monsieur Yasser Arafat est condamné à mort. Je crois que c'est ainsi que ça va se passer.
Excuse-moi de te le dire, mais c'est pas très nouveau, tu vois, ça fait quand même un moment que ça lui traîne au bas.
Quelqu'un l'a déjà dit.
Oui. Non, mais voilà, c'est... cela dit, je suis surpris que tu sois étonné de découvrir que M. Clinton n'a pas d'éducation.
Ah, je n'ai pas dit que j'étais étonné. Au contraire, j'ai démontré le contraire, mon cher ami.
Alors voilà, donc ils ont remplacé un épouvantail qui était déplumé par un épouvantail qui tient mieux la plume, c'est tout. Et maintenant, vous allez voir que tout ce qui a été dit... Je vous invite, chers auditeurs, à vous reporter à tout ce qui a été dit depuis 30 ans à propos de l'OLP... Et vous allez voir que tout va revenir exactement de la même manière à propos des Hezbollah et groupes Hamas. C'est la même chose.
L'intifada,
etc. Donc, alors, le vieil épouvantail était bon acheté. On s'en est servi pour faire un numéro de cirque et d'expliquer que Israël est prêt à la paix et tout. Alors qu'à l'évidence, dans cette affaire, Israël ne peut pas être prêt à la paix. Pour une simple raison, c'est que si Israël signe la paix réellement avec les Arabes, dans 10 ans, Israël n'existe plus pour des raisons de simple démographie. Ça n'existe plus. Hein, c'est-à-dire que, étant donné la rapidité de développement démographique des Arabes,
Israël ne peut pas survivre à la paix avec les Arabes.
Exactement.
Voilà. Bon.
Mais je te signale une chose qu'on a très peu dite en France, que j'ai peu entendue sur les médias, c'est que M. Christopher, qui est secrétaire d'État américain, ministre des Affaires étrangères, a dit que 25 000 soldats américains étaient prêts à monter sur les hauteurs du Golan.
Alors, je voudrais répondre à une auditrice quand même, parce que tu sais que le principe ici de cette émission, c'est de donner la parole à tous les auditeurs, et surtout quand c'est des auditrices. Ce que dit M. de Bekech au sujet de la cérémonie en Amérique ne correspond pas à la vérité. Je ne sais pas, je n'y étais pas, j'y étais peut-être, mais moi, j'étais pas. Moi, j'ai dit ce que j'ai vu à la télévision. Comment pouvez-vous garder Radio Courtoisie, ce monsieur vaniteux et grossier? Alors, je vais vous dire, madame, pourquoi est-ce qu'on me garde à Radio Courtoisie? Eh bien, parce que je suis fondateur de Radio Courtoisie. Bon, je ne suis pas virable. C'est aussi simple que ça.
Tu n'es pas vaniteux ni grossier. Tu es seulement grossier.
Non,
tu es seulement grossier. Tu n'es pas vaniteux.
On peut très bien me trouver vaniteux et grossier. J'accepte parfaitement. Moi, je me permets suffisamment de critiquer les autres pour permettre qu'on me critique.
Ça,
donc, il est possible
que je sois vaniteux. Elle a mal entendu, à mon avis.
Il est possible que je sois vaniteux et grossier. Mais voilà pourquoi on me garde à Radio Courtoisie. Parce que je suis avec Jean Ferré. Nous sommes les deux fondateurs de cette radio. Et c'est aussi simple que ça.
Voilà.
Et voilà. C'est comme que si vous disiez à quelqu'un, comment pouvez-vous avoir un père aussi grossier? Alors cette personne vous répondrait, bah oui, je suis désolé d'avoir un père grossier, mais c'est mon père c'est mon et père. Je n'y peux rien. Vous voyez? C'est ça. Maintenant, je vous signale que si vous faites un dixième de tour de bouton vers la gauche, vous allez tomber sur une radio qui n'a rien à voir avec Radio Courtoisie.
Non, mais surtout, il faut pas.
Si vous faites un dixième de tour de bouton vers la droite, vous allez tomber sur une radio qui n'a rien à voir avec Radio Courtoisie. Et à mon avis, ça devrait vous satisfaire pleinement.
C'est Skyrock, je crois.
Je sais pas.
Je crois que c'est Skyrock.
Je sais pas. Que pensez-vous de la barbe de 3 jours de M. Dirieux, nous dit un auditeur.
Mais il a pris des leçons aussi.
Et ben parce qu'il a pris des leçons dans l'école.
Oui, il a vu.
Sauf que lui, il n'a pas encore compris le système de la barbe de 2 jours.
Il a vu Washington.
Oui, il avait quand même bien 3-4.
L'accord de l'OLP n'est pas un marché de dupes parce que ça va nous amener ça va amener à nous prendre encore de l'argent.
Oui,
c'est vraisemblable. Oui. Mais ça n'empêche pas que c'est un marché de dupes quand même.
J'ai compris le programme de M. Kavada.
Le Likoud a annoncé, nous dit un auditeur, que lorsqu'il reviendrait au pouvoir, il dénoncerait l'accord actuel. C'est vrai qu'il l'a...
Il l'a dit à la télé.
Voilà, comme dit Philippe, vous l'entendez certainement, il l'a dit à la télé. Enfin, c'est un représentant du Likoud qui l'a dit à la télé. En plus... Alors, je dois dire que dans la série de toutes les conneries qu'on a entendues pendant cette période d'hystérie, là, on a vécu 15 jours d'hystérie totale. Il y a eu d'abord l'OM, qui était le comble de l'abomination de la désolation. Et puis maintenant, il y a la signature, sur le même ton d'ailleurs, au même niveau d'importance, la signature OLP Israël. On a l'impression qu'on assiste à un événement... c'est aussi joyeux que l'affaire de l'OM était triste. Quoi. Mais c'est au même niveau. Et on nous dit... tout ça va changer, que tout ça n'est accepté que parce que c'est passager, etc. Moi, je crois que c'est pas vrai du tout. Je crois que c'est une histoire qui est préparée depuis longtemps, et que c'est une histoire strictement médiatique.
Oui, mais je te rappelle que ce que je t'ai dit pendant que tu lisais les messages, Christopher a annoncé 25 000 soldats américains sur les hauts du Golan. Donc je crois que,
c'est ça,
déjà
l'important.
Assez programmé. Oui, je
c'est
crois.
Ça. Que... L'important, c'est ce qui va se passer
oui,
sur les hauts du Golan.
Exactement.
D'autres appels, Madame Victoria?
Oui, mais des appels qui sont en dehors du sujet pour le moment.
Bon, alors, je sais pas, est-ce qu'on en fait état?
Non, je crois pas tout de suite.
Alors peut-être qu'on pourrait quand même, quoique la lésion, me paraisse difficile à faire, peut-être qu'on pourrait quand même demander à Sylvain Gliozo et à Olivier Bouillon, ce qui va se passer, ça n'a rien à voir, je m'empresse de le préciser, au BBR, alors c'est-à-dire sur la pelouse de Reuilly, autrement dit à l'emplacement même de la foire du trône, le 25
et 26 septembre, deux jours. Bonsoir Serge.
Bonsoir Sylvain.
Alors, intéressant, moi je trouve cette liaison. Conversation avec Roger était particulièrement intéressante et j'ai trouvé l'auditrice sévère à ton égard.
Pourquoi? Quand elle a dit que j'étais vaniteux ou quand elle a dit que j'étais grossier?
Les deux.
Ah bon, c'est gentil, merci.
Je t'ai trouvé déjà tellement vaniteux et grossier dans le passé que là, je ne sais pas à quoi elle fait allusion.
Non, grossier, il est. Mais vaniteux, il n'est pas. Ça, je suis sûr.
Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Bon, alors vaniteux.
Oui,
je
suis non.
Pas du tout.
Pas du tout. Bouffe d'orgueil, c'est pas la même chose.
Alors, t'ai-je dit, puisque c'est vrai que nous nous tutoyons aussi, Roger.
C'est vrai.
T'ai-je dit que tu étais la bienvenue sur la pelouse de Reuilly pour exposer dans un immense stand, on parle de plusieurs centaines de mètres carrés, le Libre Journal papier. Hein, tu auras tout le loisir d'en faire une large publicité et combien nous conseillons à nos amis de le lire. C'est le rendez-vous tous les 10 jours. D'une lecture intelligente et d'un survol limpide de l'actualité. Toujours avec ce recul intéressant du temps. Hein. Voilà, Olivier, j'ai été bien avec Serge, là.
On ne peut être mieux.
Vous reviendrez la semaine prochaine.
Oui,
on a
gagné.
On a le droit à la troisième semaine.
Bon, si vous voulez, on va arrêter de faire des bêtises.
Non, est-ce que je peux interrompre une seconde? Bien sûr. Je n'interromps jamais, mais c'est pour dire que mon ami à gauche, enfin, mon ami, vient de vanter le Libre Journal de la France courtoise. Et que ADG en a profité pour faire un jeu de mots absolument inadmissible. Il a appelé ça, vu que ce journal est un décadaire, ADG l'a appelé la smalade abdécadère. C'est vraiment, ce n'est pas possible. Et cet homme est invité ici régulièrement.
Ça se réglera
à ce
avec
micro.
Lui. Alors attends, je voudrais quand même.
Si
j'avais tout à l'heure entamé quelque chose, j'ai pas terminé parce que je me suis pris les pieds dans mon tapis. Effectivement, et un auditeur nous dit, nous rappelle, il y a un député du Likoud qui a comparé les accords OLP Israël avec l'entrevue de Montoire entre Hitler et Pétain. Personne de sensé n'y aurait
pensé.
C'est à l'usage des crétins, c'est à l'usage des imbéciles, cette comparaison. Alors, c'est un député du Likoud qui est français, enfin, qui est de langue française, etc. Ouais. Et ça fait vraiment partie des outils terroristes qui sont en usage habituellement dans ce genre de discours. Mais il faut faire très attention. Et là, je voudrais donner un conseil à mes amis juifs. Il faut faire très très attention. Il y a des comparaisons qui sont glissantes, on peut dire. Hein. C'est un peu comme l'huile d'olive, quoi. C'est très bien pour s'en couvrir le corps, ça dépend ce qu'on veut faire dans la demi-heure qui suit. Si c'est pour se faire bronzer, c'est très bien. Si c'est pour d'autres activités, ça les complique extrêmement. Et alors, par exemple, l'autre jour, j'entendais, je crois que c'est Yitzhak Rabin lui-même qui a dit, nous avons passé avec l'OLP la paix des braves. On conclut la paix des braves. Et non, c'est Arafat qui a dit ça, qui a dit c'est la paix des braves. Et son homologue israélien a dit oui, nous sommes inspirés du précédent de la France et de l'Algérie.
Oui, j'ai vu ça.
Tu as entendu ça?
Oui, j'ai entendu.
C'est extraordinaire parce que là, ils sont d'accord. Hein, Arafat et.
Les accords déviants, on a parlé des accords.
Donc voilà, ils ont passé. Donc l'accord actuel, l'accord qui vient d'être signé à Washington sous l'égide de cet admirable personnage. Moi, Clinton me fait hurler de rire. Oui. Pourquoi? Parce que je pensais qu'avec Carter, l'Amérique avait atteint le fond du fond. Ou le sommet, c'est Dieu, mais qu'on pouvait pas aller plus bas, quoi. C'est-à-dire que, dans l'ordre de ce que je ne vous dirai pas, on pouvait pas descendre plus bas, c'est fini. Après, on touche même pas le rocher, on touche la lave en fusion, quoi. C'est... Et bien, ils ont inventé Clinton. Et Clinton, c'est une espèce de Carter en moins. Il est encore ou plus, ça dépend de quoi
moins
on parle.
Pire, ou plus pire.
Plus pire. C'est plus pire que Carter. Et l'autre jour, je ne sais plus sur quelle chaîne du câble, ils avaient invité... Carter a parlé et je le regardais parler. Alors quand il parle, on dirait ces poupées espagnoles. Il faut connaître qu'on appelait des chuponcette. Mm-hmm. C'est des espèces de poupées avec la gueule molle comme ça. C'est du caoutchouc mou. Mm-hmm. Et alors dedans il y a une espèce de vis sans fin fait tourner avec une petite manivelle qui est posée sous les fesses de la poupée. Et alors, ça fait faire des mouvements au visage de la poupée.
Le robot.
Mais alors, ce pauvre Carter, il parlait, on avait l'impression d'une chuponcette. Et Clinton, c'est encore pire parce que c'est une chuponcette cassée. C'est-à-dire, la manivelle, on tourne et le visage bouge pas. Mais ça parle quand même. Alors donc, grâce à lui, ça y est, les accords sont signés. Grâce à lui, il n'a rien fait absolument.
Et c'était même, on a fait en sorte qu'il ne le sache pas.
Oui, mais il est au courant de rien. Il est venu, il a présenté les gens, il est au courant de rien.
Les Norvégiens ont fait en sorte qu'ils ne le sachent pas.
Et alors, ce qui est horrible, c'est que sous cette égide incontestable, ils ont signé des accords qui sont les accords d'Évian. Ce qui veut dire, il faudrait que je prévienne mes amis juifs et mes amis arabes, qui sont très nombreux dans un camp comme dans l'autre. C'est que ça veut dire pour les juifs que dans les 3 mois qui suivent, disons dans les 6 mois, on va vous dire la valoche ou le cercueil, hein, et ça veut dire pour les arabes que dans les 20 ans qui suivent, vous allez être en train de vous entre-égorger entre progressistes et islamistes. Donc à mon avis, cette idée de comparer les accords israélo-oelpistes avec les accords d'Évian, c'est pas la meilleure idée du monde. C'est ce qui s'appelle chercher la poisse.
Voilà, exactement.
Hein, je crains fort qu'effectivement, ça se termine comme ça.
Exactement.
Donc, pardon, j'ai coupé nos
Quel amis. Mal vas-tu avoir pour refaire une liaison comme ça maintenant avec les BBR? On est en pleine Palestine.
Ben non, je vais avoir de mal parce que je vais te dire...
C'est intéressant, la Palestine. Alors,
Philippe Varlet nous dit, après les accords d'Évian, à quand les accords Ricard? Bravo, c'est très bien. C'est très très bien. Il a raison de faire ce genre de choses, surtout... Non, je n'aurai aucune peine parce que... Je vais quand même te dire une chose. Moi, j'ai pas une sympathie folle pour les antagonistes ou les protagonistes de cette affaire. Mais je dois reconnaître une chose, c'est que cette façon dont la presse a traité pendant des années les Palestiniens comme des sous-hommes. J'y étais très sensible le jour où je me suis aperçu que moi aussi j'étais un sous-homme. C'est-à-dire que pendant des années, j'avais l'impression d'appartenir à la catégorie des êtres humains, ou des êtres humains. Et puis d'un seul coup, j'ai découvert que j'appartenais à la catégorie des sous-hommes parce que j'étais un nationaliste français. Mmh. Et alors, j'ai commencé à me sentir proche de gens que je détestais par ailleurs pour des raisons politiques. Je pense aux Irlandais, par exemple, aux indépendantistes irlandais, qui sont des gens qui incarnent quelque chose que je déteste, c'est-à-dire le lien avec Moscou, le côté communiste, tout ça me déplaît, ou les Palestiniens, c'est pareil, ou les gens de l'État et tout. Mais je me suis dit, malgré tout, en dehors de cette divergence politique profonde, on a quand même quelque chose en commun, c'est qu'on est chez nous, sur notre terre, et qu'on est traité par des gens qui sont des invités, ou qui sont des hôtes, comme des sous-hommes. Et c'est insupportable. Alors, un jour est arrivé un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, qui a dit, écoutez les enfants, faut arrêter de nous considérer, nous, sauf est-ce qu'on est des gens qui sont nés chez nous, comme des sous-hommes, on va faire comme si on était des êtres humains. Et alors, j'ai dit, mais c'est une bonne idée qu'il a, ce monsieur. Et donc, j'ai marché avec lui. Alors, la liaison est facile à faire.
Absolument.
Je crois que on n'a rien à voir avec les Palestiniens. On n'est pas musulmans, on n'est pas arabes, on n'est pas palestiniens, on n'est rien de tout ça. Mais on a un point commun qui est le sentiment profond qu'on a le droit d'être chez nous, et non pas chez nous, chez eux, ou eux, chez nous, chez eux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà.
Absolument, Serge. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes en situation, nous, nationalistes, de résistants. Nous sommes les nouveaux résistants en 1993. Et ces BBR, cette fête traditionnelle, annuelle maintenant, des bleus blancs rouges, c'est vraiment l'événement. C'est l'événement culturel et politique, avant d'être la fête familiale et populaire. Et quand je dis événement, c'est avec une petite gêne, parce que le mot est souvent galvaudé. C'est un événement pour tout. Tout est un événement aujourd'hui. Alors, pourquoi la fête des BBR est un événement encore plus important que les autres? Parce que, Serge, tu le sais, tout le monde ne le sait pas, eh bien, c'est notre manière à nous et c'est la seule façon de manifester. C'est la seule manière de nous retrouver. C'est la seule manière de faire de la publicité. C'est la seule manière pour... tous ceux qui défendent véritablement nos valeurs, c'est-à-dire ce nationalisme à la française dont on a tellement souvent parlé sur Radio Courtoisie, c'est le seul événement qui permet à tous les sympathisants de la cause nationaliste de se regrouper. Il n'y en a pas d'autre. Alors il y a diverses manières de protester. Il y a les élections, il y a le bulletin de vote, il y a le référendum, il y a évidemment les médias, mais les médias sont contre nous, il y a la presse, mais la grande presse est contre nous. Donc nous n'avons pas tellement de moyens de nous exprimer. En voilà un, c'est le plus grand de l'année, il faut donc y être. Il faut donc y être, et il faut y être plus... Nous avons plus de raisons d'y être cette année, peut-être que les années précédentes. Parce que le grand fakir de Smyrne a frappé. Il a frappé, Balladur est arrivé, il n'a rien fait, et la population, la France et les Français sont hypnotisés. Il n'y a eu aucune décision particulière. Moi, je n'ai rien vu. Je ne sais pas si vous avez eu des choses. Et il ne s'est strictement rien passé. Nous sommes dans la continuation totale du gouvernement socialiste. Et Balladur est au sommet des sondages. Alors, moi, je dis, parce que les Français sont tous sauf des idiots. Je ne sais pas qui a dit que les Français étaient... Pas du tout. Ils sont hypnotisés. Alors, il y a une manière de sortir de cette situation infernale, eh bien, c'est d'aller au BBR. C'est d'aller au BBR où on va se réveiller. Et j'espère, Serge, notamment grâce à toi, tu me permets de nous exprimer, d'inviter nos amis à se rendre à cette fête annuelle. J'espère que nous serons très nombreux, parce que, qu'on le veuille ou non aussi, la fréquentation des BBR, le niveau de fréquentation des BBR va être mesuré. Nous allons avoir des tas de gens qui vont se mêler à la foule. Alors, soyons nombreux, essayons de dépasser les 100 000 personnes sur ces deux jours, essayons, nous pouvons le faire. Et tu peux être sûr que l'affluence considérable va avoir un poids politique. Et nous avons été écartés d'une manière scandaleuse de la représentation parlementaire par cette loi inique. Nous avons toujours les mêmes médias de désinformation. Et malgré tout, cette affluence que je souhaite bien évidemment la plus importante va être un outil d'expression politique qui sera pris en compte d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce un élément parmi d'autres que évidemment le rétablissement de la proportionnelle tant réclamée pour les prochaines échéances législatives, cette modification devant intervenir bien sûr avant les prochaines présidentielles.
Oui, mais je crois que c'est très important ce que tu dis sur... je suis certain que ce que tu dis sur... à propos du nouveau gouvernement et à propos de, enfin, du nouveau, il est plus si nouveau que ça maintenant, mais du gouvernement Balladur est très important. J'ai une interprétation, je ne sais pas ce qu'en pense Roger, Roger Mine qui est là, c'est que il y a chez les Français, il y a dans ce pays, un très vieux fond, Dieu merci, un très très vieux fond monarchiste, un très vieux fond monarchiste au sens du besoin d'avoir un seul homme qui gouverne et qui incarne la légitimité, etc. Or, Édouard Balladur représente une espèce de... Il arrive à incarner, pour des raisons qui relèvent de l'irrationnel, une espèce de sérénité, une espèce de tranquillité. Et le peuple français est à ce point terrorisé, littéralement terrorisé par la situation actuelle, par l'effondrement économique, l'effondrement financier, l'effondrement bancaire, l'effondrement moral. Il est tellement terrorisé qu'il a besoin de se raccrocher à quelqu'un. Alors il se tourne vers Édouard Balladur, qui a un côté très paternel, et il lui dit « Papa, j'ai peur, défends-moi ». Et papa est là, et simplement parce qu'il est là, il prend son petit peuple français sur son cœur et lui dit « N'aie pas peur ». Ils n'ont pas, il ne t'arrivera rien, mais ça ne te fera pas mal.
Oui, moi j'ai écrit dans, puisque tu m'as apostrophe, j'ai écrit dans un article récent, Monsieur Balladur fait 70%. Alors que, à mon avis, personne n'est pour lui ni contre lui, on l'observe. On est en train d'observer Monsieur Balladur, on n'est pas pour ou contre.
Personne n'est pour ou contre.
Oui,
papa.
Ce que je voulais te dire, c'est qu'une chose qui m'inquiète beaucoup, moi, et je m'adresse également maintenant à mon voisin de gauche qui a ébauché le sujet tout à l'heure, effleuré le sujet, je constate que les sondages disent toujours le contraire de ce que pense le peuple. Si tu dis dans un bistrot parisien, Monsieur Balladur fait 70% de pour, tu déchaînes les rires. Et ce sont même des gens qui ne sont pas du tout contre lui.
Oui,
mais ce sont des gens qui disent, mais je comprends pas pourquoi, il y a aucune raison. On n'est même pas contre, on observe.
Ils ne disent pas la vérité. La vérité, c'est que l'immense majorité des Français est réellement pour Balladur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, ils sont terrorisés par la situation.
Ils ont besoin d'un père, oui, c'est sûr.
Mais c'est vrai. Je le vois à travers le courrier qu'on reçoit aussi bien au journal qu'ici. Mmh. Par exemple, tiens, tout à l'heure, un appel téléphonique d'une auditrice qui dit... attendez, je cherche parce que c'est tout à fait... Oui, il y a une auditrice qui dit « Serge, me semble curieux, est-ce qu'il va tomber malade ?» Non, je vous rassure. Je ne vais pas tomber malade. Voilà. Je ne sais pas ce qu'a M. Beckett ce soir. Il dit des bêtises. Il n'est pas objectif. Il me déçoit. Il est trop négatif. Voilà. Ça, c'est typiquement la pensée moyenne française à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dis ça ne va pas, le pays est dans une situation catastrophique.
C'est négatif.
Les gens te disent, mais monsieur, vous êtes négatif. Attendez, laissez-les faire. Laissez faire M. Balladur. Il y a quand même un certain temps qu'on le laisse faire. Et il n'obtient rien. Je te donne la parole tout de suite, Sylvain. Quand on voit que des gens de chez nous, quand je dis de chez nous, de la droite nationale, viennent dire, mais faites confiance à M. Pasqua pour régler le problème de l'immigration, mais c'est à se taper le derrière contre la suspension. Il y a de quoi devenir malade à l'intérieur du ventre. C'est incroyable d'entendre une chose pareille. Pasqua, c'est l'agent... absolument typique de l'asservissement de la France aux immigrationnistes. Je vais essayer de rester courtois. Et tout ce qu'il fait, c'est du bidon, c'est du pipeau. Il a organisé des charters, il a fait une loi qui est une loi nulle. Et quand elle était tellement nulle que personne ne pouvait s'y opposer, et il a eu peur qu'elle passe parce que personne ne s'y opposerait. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a suscité l'amendement Marceau, qui est tout simplement de la provocation pour autre chose, puisque le juge Marceau, je le connais très bien, c'est un type extrêmement intelligent, il est arrivé la gueule enfarinée en disant « Il faudrait quand même éviter, n'est-ce pas, qu'en contrôlant les identités, on contrôle spécialement les nègres. » Alors, naturellement, tous les autres ont dit « Comment ? Qu'est-ce que c'est ? On veut contrôler les nègres ?» Alors Marceau a dit « Mais non, pas du tout, je disais le contraire. »« Non, non, vous dites pas le contraire, c'est bien ce que vous disiez, etc. » Tout ça est un mensonge formidable. Je ne sais pas comment faire passer ce message pour dire à mes concitoyens « Écoutez, ouvrez vos oreilles et vos yeux, arrêtez de croire à n'importe quelle connerie, sous prétexte qu'elle est proférée par un ministre, ou par un ministre qui prétend qu'il est de droite. » C'est effrayant de penser à quel niveau de sottise, de gogoterie on est arrivé. Moi, je suis absolument accablé de voir qu'aujourd'hui, on nous dit, il y a un ministre de droite en France, c'est M. Pasqua. M. Pasqua, c'est le plus grand danger que la France ait pu courir depuis des années. Il représente le plus grand danger pour l'avenir de la France, parce que c'est l'homme qui, pour des raisons strictement politiciennes et électoralistes, est en train de livrer le pays à l'immigration.
Oui, Serge, il est moins dangereux que M. Joxe, à mon avis.
Pas du tout. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que Joxe, au moins, on savait avec quelle ligne
il
pêchait.
Ah oui, l'affiche était au mur.
C'est effrayant ce qui est en train de se passer dans ce pays. Alors, naturellement, quand on le dit, ce qui est grave, ça se passe, ça a toujours été comme ça. Ce qui est très, très grave, c'est que quand je dis ça, j'ai des gens qui sont mes amis, qui devraient être mes amis, qui viennent me dire « Ah, mais dis donc, toi, t'es un type dangereux. » T'es un type de gauche, tu y crois pas, tu crois pas à Pasqua. Je vous dis, les enfants, écoutez-moi, croyez-moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, que j'ai le nez dedans, je reconnais l'odeur.
C'en est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'en est, voilà, c'est tout. Je peux pas dire autre chose.
Enfin, moi, je dois dire, on est libre à Radio Courtoisie.
On n'est pas à Radio Courtoisie. Là, on est sur les jambes de Radio Courtoisie, mais c'est le libre journal.
J'ai un peu plus confiance dans M. Pasqua que dans ses prédécesseurs.
Je n'en doute pas une seule seconde.
Non, non, mais je ne le dis pas par démagogie. Hein. Je pense qu'il est moins dangereux que ses prédécesseurs.
Sylvain. Bien, oui, on va t'aider, Serge. On va t'aider parce que tu demandes aux Français d'ouvrir les yeux, de comprendre. Nous allons essayer de le faire avec toi.
De
nous
voir que les gens avalent n'importe quoi, voilà, de plus en plus.
Absolument.
C'est terrifiant.
Alors, nous allons continuer la grande œuvre. Nous allons inviter tout le monde à venir les 25 et 26 septembre sur la pelouse de Rye pour la fête des Bleus, Blancs, Rouges, parce que c'est aussi un lieu de débat politique, d'information politique très pointue, où on a l'occasion de rencontrer, soit dans le cadre des forums politiques, soit lors des discussions dans les stands de la presse amie, les stands tenus par les auteurs de la philosophie qui nous intéresse, et de ce grand débat sort souvent la vérité, sinon la lumière. Et là, je dois dire que nous invitons tout le monde à essayer de comprendre, d'avoir la vérité et d'avoir les raisons qui nous font croire, et je suis d'accord avec toi, Serge, que le gouvernement actuel, la politique de Balladur, est vouée inéluctablement à l'échec. Voilà. Alors nous, on le dit. Il suffit pas de le dire et de le crier. Il faut le démontrer.
Avant d'entrer dans le détail, ouais, est-ce qu'on pourrait passer une annonce qu'on doit impérativement passer au milieu? Ça vous permettrait d'enchaîner après sur le détail des opérations.
Victoria, vous avez mon autorisation.
Voilà, merci.
Il est très bien.
Bientôt, cet automne, le 7 novembre, nous célébrerons notre 6e anniversaire. 6 années de combats quotidiens pour faire respecter notre droit d'émettre et d'être entendu. Grâce à vous, chers auditeurs qui êtes nos seuls financiers, nous avons duré et progressé sans jamais compromettre notre absolue liberté. Mais il reste à faire et à consolider. Aidez-nous en participant à notre enquête sur l'auditoire, sur l'audience, sur les conditions de réception et sur les souhaits des auditeurs de Radio Courtoisie. Nous avons besoin de savoir si vous nous recevez toujours clairement, sans brouillage, à quel moment vous nous écoutez et depuis quand. Quelles sont vos critiques, vos suggestions, vos intentions? Si par malheur Radio Courtoisie disparaissait, quelle autre radio écouteriez-vous à sa place? Aidez-nous, participez à notre enquête, un formulaire de 4 pages est à votre disposition. Pour l'obtenir, adressez-nous une enveloppe normalement timbrée et libellée à votre nom. Vous connaissez notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Ensemble, nous continuerons à réunir ceux qui, en dépit de leur caractère divers, ont en commun l'idéal du vrai, du beau, du bien.
Vous savez, il y a quelques années, je collaborais à une autre radio, qui a été la radio mère de Radio Courtoisie, c'était Radio Solidarité, on peut dire le mot, et maintenant, il y a prescription, et la dame qui dirigeait à l'époque Radio Solidarité avait l'habitude de dire, si un jour on empêche Radio Solidarité de s'exprimer, je me jetterai par la fenêtre. Et bien je dis exactement la même chose. La différence, c'est qu'à l'époque, Radio Solidarité était au 11e étage, avec ton étage au rez-de-chaussée. tu voulais dire quelque chose, Sylvain? Peut-être tu voulais poursuivre?
Non, j'étais aimablement interrompu par Victoria, qui avait un impératif technique.
Et qui avait du mal
et
à
puis
le
passer. On était en train de parler donc de cette fameuse fête des bleus, blancs, rouges, ce grand rendez-vous annuel donné par Jean-Marie Le Pen, à toutes les bonnes volontés pour essayer de comprendre la situation d'aujourd'hui. Alors, j'allais dire, cette fête est évidemment ouverte à tout le monde, sans exclusive aucune, pour pouvoir notamment y trouver les arguments, les réponses aux questions que l'on se pose. Et j'étais en train de dire, donc, évidemment, la politique de Balladur est vouée d'une façon inéluctable à l'échec. Moi, je l'appelle le fakir de Smyrne. Oui, alors, je l'appelle comme je veux, mais c'est pas outrageant.
Il faut dire son excellence, le fakir de Smyrne.
Oui, si tu veux.
Non, c'est un gouvernement courtois sur une radio courtoise.
Bien sûr, mais je reste tout à fait courtois. Non. Alors donc, j'invitais tout le monde à nous rejoindre. Alors, je dis oui, au-delà de la fête, c'est important. Je crois que notre ami Olivier Bouillon, tout à l'heure, va quand même rappeler les axes essentiels donc de ces festivités absolument qui vont prendre les deux journées d'une façon tout à fait complète et pleine. Deux jours, c'est à peine suffisant pour faire le tour de la fête. Mais donc, au-delà donc de cette fête familiale et populaire, c'est un ressourcement donc tout à fait politique. Alors, tout le monde doit venir parce que c'est un devoir. Mais j'ai quand même noté certaines catégories de Français que je pourrais comprendre s'ils ne venaient pas au BBR. Je dirais, je les pardonne à l'avance.
Alors, c'est l'apartheid inversé.
Oui, c'est les gens, s'ils ne viennent pas, mon Dieu, c'est les futurs licenciés d'Air France et plus généralement les Français qui sont satisfaits du marché de l'emploi. Ceux-là peuvent ne pas venir. C'est les patrons de PME qui sont satisfaits du marché du crédit, de l'attitude des banques à leur égard, ça, ceux-là peuvent ne pas venir. Les agriculteurs heureux de leur sort, tu sais qu'ils sont nombreux en France, peuvent ne pas venir. Les patrons pêcheurs qui enfin vont pouvoir prendre des vacances,
ça fait longtemps que ça leur arrive, peuvent ne pas venir.
Tous les parents, nous sommes en période de rentrée des classes, tous les parents qui sont tout à fait satisfait de constater que le pourcentage d'illettrisme en classe de 6e continue de croître et qui trouvent ça tout à fait normal, peuvent ne pas venir. Les parents, toujours ces parents, d'écoliers, de collégiens, de lycéens, qui sont tout à fait satisfaits de constater que le corps enseignant est toujours de la pire espèce socialiste, ceci depuis les lois Langevin-Wallon, et que ça ne change pas.
Disons à 60%, il y a quand même un pourcentage
oui, on
qui
en
échappe
en
a à la malédiction.
Alors, tous les téléspectateurs, vois-tu, qui sont ravis de continuer à avoir, à écouter, à entendre les mêmes désinformateurs sévir sur le petit écran, tous ceux qui sont contents de ça peuvent ne pas venir. Les propriétaires de Radio France, c'est-à-dire toi et moi, tous les Français, qui se délectent tous les matins en écoutant l'ineffable Yvan Levaille, ceux-là, sur France Inter, ils peuvent ne pas venir.
Qu'est-ce qu'ils écoutent,
ça ? Ah, il y en a certains, Roger.
Non, moi je n'écoute pas.
Alors, il y a beaucoup de... Il paraît qu'il y a énormément de Français qui trouvent qu'il n'y a pas assez d'immigrés maghrébins et africains en France. Alors, ceux qui trouvent qu'il n'y a pas assez d'immigrés maghrébins et africains peuvent effectivement ne pas venir au BBR, je les comprends. Tous ceux qui trouvent le niveau d'insécurité dans les grandes villes, tous ceux qui trouvent que une jeune fille de 17 ans n'a rien à faire dans les rues du 3e arrondissement à 11h le soir, tous ces gens-là,
à mon avis, une jeune fille de 17 ans devrait être chez elle à 11h le soir. Mais
peuvent ne pas venir. Alors, vois-tu, la situation est dramatique, on l'a dit, on l'a répété. Nous n'avons jamais connu un tel degré de désespérance chez certains de nos compatriotes, et nous le voyons terriblement aujourd'hui avec cette manifestation de la coordination rurale, qui, tu le sais, a toute notre sympathie et tout notre soutien. Alors, je crois effectivement, Serge, qu'il faut aider nos compatriotes à ouvrir les yeux. Il y a diverses manières de les ouvrir, ces yeux. Une bonne, c'est bientôt, c'est les 25 et 26 septembre sur la pelouse de Reuilly pour la fête des BBR.
Merci Sylvain Gluzot.
Que oui, je peux poser Victoria, les questions des auditeurs.
Attendez, je voudrais d'abord donner la parole une minute à notre excellent camarade Olivier Bouillon pour qu'il nous donne des précisions techniques. Sur, à moins que tu aies autre chose à dire, Olivier, bien entendu,
Juste pour faire transition, je voudrais que ça reste un peu dans le cadre de ce que disait Sylvain tout à l'heure et de ce que disait Monsieur Mine. Je crois que c'est bien d'être sceptique, c'est bien de garder le doute. Il faut douter peut-être de l'accomplissement de la politique de M. Balladur et des gens des libéraux. Il faut peut-être aussi douter de la sincérité et des qualités de bonnes gens, je dirais, des sympathisants du Front National. Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire, comme je l'ai fait moi il y a déjà quelques années, il faut venir voir la BBR, faut venir ouvrir ses yeux, il faut venir voir les gens avec leur famille nombreuse, des grands, des petits, des gros, des moyens, de toutes les couleurs, voir ce qui se passe.
Tu sais, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, les BBR, à mon avis, je vais dire une chose complètement iconoclaste, pour le convaincu, pour le militant, le gars qui a tout compris et tout, ils peuvent parfaitement rester chez lui, c'est pas absolument indispensable d'aller au BBR parce que, en gros, ça va se passer comme l'année dernière. Non, mais en gros, l'idée. Alors, Philippe me fait signe, oui, mais s'ils veulent donner de l'argent au mouvement, c'est beaucoup plus simple, ils envoient une adhésion, bon, s'ils sont sympathisants du Front National. En revanche, je dirais que les gens qui ne savent pas ce que c'est que la droite nationale, autrement que, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, autrement que par les médias, il faut absolument. Alors cette année, c'est d'autant plus facile
que c'est en plein Paris.
C'est vraiment au cœur de Paris. Enfin, c'est la plus de la Reuilly. Il y a 77 moyens d'y arriver à pied, à cheval, en voiture, en métro, en autobus. Eh ben, il faut aller voir. Il faut voir ce que c'est que ces gens qui viennent à ces réunions. Voilà, c'est tout. Après, on pourra en parler. Après, vous aurez le droit de dire, mais moi, je ne crois pas au Front National pour sortir la France du marasme et tout. Peut-être. Mais tant que vous savez pas ce que c'est, tant que le seul moyen d'information que vous avez sur le Front National, c'est Monsieur Levaille, moi, je vous dis tout simplement, avec beaucoup de sympathie, vous n'avez pas le droit d'en parler. Hein. C'est exactement comme si Ray Charles vous expliquait ce que c'est qu'un tableau de Picasso. Moi, je considère qu'un tableau de Picasso dans la période finale, c'est de la mauvaise peinture. Mais moi, j'ai le droit de le dire parce que j'ai vu les tableaux de Picasso. Monsieur Richard, il n'a pas le droit d'en parler. Il peut très bien parler de musique, mais il ne peut pas parler de peinture.
Puis-je faire remarquer...
Monsieur Levaille ne peut pas parler du Front National.
Je te demande de le respecter, a été décoré de la Légion d'honneur par Monsieur Jack Lang.
Bon, écoute, étant donné l'usage que Jack Lang a fait généralement de la Légion d'honneur, c'est pas le plus mauvais qu'il fait. Parce que Richard restera dans mon cœur pour une chose.
Ça tombe à place.
Non, Richard restera dans mon cœur pour un mot qu'il a eu. J'ai déjà cité au moins 5 fois cette antenne, mais je n'y résiste pas. C'est un jour où une journaliste idiote, on passera le pléonasme, lui a posé la question, mais monsieur Richard, ça doit être terrible d'être aveugle de naissance. Et il lui a répondu, ça aurait pu être pire, j'aurais pu être nègre. Et rien que pour ça, souvent il mérite.
C'est pour ça que Jack Lang lui a donné la Légion d'honneur. Pardon.
Alors, Olivier.
Alors oui. Si on ne vient pas pour découvrir ou pour se rendre compte par soi-même, on peut venir pour s'amuser. Et si on vient pour s'amuser, va pouvoir faire des tours de manège dans la fête foraine, notamment avec ce qu'on appelle 5, c'est un peu technique, mais 5 grands tournants, c'est-à-dire entre autres un grand manège d'autotamponneuse, et de ces grands manèges qu'on voit d'ailleurs à la foire du trône, qui vous amènent des émotions fortes. On peut aussi emmener ses enfants, qui vont s'initier au cheval, au poney, au mini-moto, c'est sans danger, c'est entouré de toute précaution. On peut aussi aller un peu se cultiver et découvrir des choses, notamment sur le stand du 93, où on pourra visiter une exposition d'insectes. Il y aura 2000 insectes sous verre, je rassure tout le monde, pour venir voir ce que c'est. On pourra aussi venir découvrir Tintin et Hergé, notamment.
Mais 2000 insectes, c'est pas un exploit. Moi, je connais plein de rues
dans Paris.
Il y a que le métro parisien déjà.
Mais attention, Tintin, c'est un fasciste.
Hein. Ben, c'est justement, comme ça, on viendra voir ce que c'est que véritablement. Ah, oui, quoi.
Il n'y a plus que chez nous qu'on les présente.
Oui, c'est parce vrai. Que, il est blond. D'abord, il est blond. D'abord, il faut faire très attention. Hein. Il est blond, Tintin.
Alors, on pourra aussi venir faire dédicacer des œuvres de bande dessinée, qui est un art majeur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au village, aux rencontres nationales de la BD. On pourra venir, alors là, prendre franchement une grande crise de rigolade le samedi soir à partir de 20h30, si je me trompe pas, c'est ça, 20h30, à la course de vachettes, c'est-à-dire quand il y a une course à la cocarde, grosso modo, des vachettes...
Quoi, va venir, c'est ça.
Bah peut-être, ça serait marrant d'ailleurs, on pourrait beaucoup rigoler. On peut aussi venir se faire peur en sautant l'élastique, puisqu'il y aura une grande attraction, c'est le saut l'élastique. Là, âme sensible, ne pas sauter, c'est quand même à 65 mètres de hauteur. C'est pas au rez-de-chaussée, vous pouvez toujours essayer, on sait jamais.
Moi, vous savez que vous faites une traversée de la Goutte d'Or avec une flamme du Front National à la boutonnière, ça coûte moins cher que le saut à l'élastique, et c'est au moins aussi dangereux.
Ça fait aussi peur. Et puis, on pourra venir voir deux choses qui sont intéressantes, peut-être pour les gens qui connaissent déjà plus. Premièrement, c'est deux grands événements qui, des BBR. C'est premièrement, on en a parlé la semaine dernière, la sortie d'un disque superbe, Les Partisans Blancs de la Serpe, avec une nouvelle orchestration. Et puis aussi, il était promis, il est là, il arrive, il sort pour les BBR, l'album des 20 ans du Front National. Alors justement, pour les sceptiques, ils pourront même l'acheter, ils feront moins ça. Et ils verront que depuis 20 ans, ça n'a pas bougé d'un iota. Et que...
D'un iota ou nous, bien entendu.
Voilà, parce que je n'allais pas le faire, je vous le laissais quand même. Et puis s'informer plus concrètement sur le front.
Merci. Alors, Olivier.
Il y a des questions un peu précises. Oui. Pratiquement parlons. Indiquez l'heure des BBR, s'il vous plaît.
Alors, l'ouverture au public le samedi se fait à partir de 10h. Tout simplement parce qu'on a des amis de province qui arrivent tard, hein, qui voyagent de nuit, qui installent en début de matinée. Et donc, pour des raisons de sécurité, on ne peut ouvrir les stands qu'à partir de 10h. Oui. Le dimanche, ça ouvre à partir de 9h30. Pour ceux qui le souhaitent, il y a une messe qui est dite à 10h. Et ça se terminera tard après le discours, puisqu'on continue la fête sous les lampions.
Les moyens de transport.
On en a déjà parlé à ce moment-là, mais on le redit, on est là pour ça. Vous avez le bus, il y en a un, il y a la petite ceinture, il y a la ligne 187, m'a-t-on appris la semaine, ou 147, m'a-t-on appris la semaine dernière.
C'est 87.
87, mais 147 aussi, on avait un papier la semaine dernière,
c'est
je crois
46,
bien.
C'est 46, l'autobus 46, hop. Gare du Nord, Parc Floral.
Eh ben voilà, on me reprend. On a aussi, éventuellement...
Porte Dorée, et il circule le dimanche.
Voilà, c'est important.
Aux auditeurs,
on a aussi le RER qui arrive pas trop loin, on a aussi la sortie Porte Dorée sur le périphérique, et puis toutes les autoroutes qui viennent de province qui arrivent...
Tu as nommé le métro, bien sûr.
Le métro.
Alors, tiens, à propos de métro, un auditeur nous dit « Le débat est affligeant, il vole très bas, c'est comme le métro. Serge de Bucquet, je prends vraiment les Français pour des... » Alors là, j'arrive pas à lire, c'est « C », mais il y a des lettres derrière que je n'identifie pas.
Attendez, je reste sur les... Serge, oui. Excusez-moi, je reste sur les transports.
Oui.
Alors, bon, c'est tout comme moyen de transport.
Il y a la voiture, bien évidemment, avec des parkings.
Les parkings seront largement tranquilles, faciles d'accès.
Absolument, tout ça est tout préparé et ils coûteront pas cher du tout, juste pour nous aider un peu à mettre les voitures correctement.
Redites-nous les prix d'entrée, parce que j'ai quelques petites critiques là.
Grande nouveauté des BBR 93, le prix du billet qui n'est pas varié depuis 3 ans reste à 70 francs.
Les
enfants
deux jours,
pour les deux jours, bien sûr. C'est toujours suffisant pour faire le tour de la fête. Les enfants de moins de 12 ans ont entrée gratuite. Mais en plus de ça, cette année, les titulaires de la carte de famille nombreuse auront leur entrée à 50 francs par personne, ainsi que les titulaires de la carte du Front National de la Jeunesse, nos amis étudiants, qui n'ont pas beaucoup de sous.
Et alors, ça répond à une critique d'auditrice qui disait que vous auriez peut-être pu faire payer le prix d'entrée 40 francs pour un jour. Donc là, les familles nombreuses, parce que c'est cher quand on est en famille, donc avec 50 francs pour les deux jours, et sans que les enfants de moins de 12 ans payent.
C'est quand même la seule chose qui, dans le fait, baisse, puisque le prix n'a pas augmenté, et qu'en plus, on baisse les prix, quand même.
Et quelqu'un dit, au lieu de faire un prix pour les familles nombreuses qui n'existent plus, il ferait mieux de faire un prix pour les chômeurs.
Ah bien, alors, j'engage cet auditeur et tous les autres à venir voir que les familles nombreuses existent et qu'elles se rencontrent beaucoup dans notre famille de pensée.
Vous les avez rencontrées au Front National.
Oui, bien sûr. J'ai juste une petite chose. Il y a un auditeur qui me dit qu'on a interdit une librairie de venir, qui s'appelle La Joyeuse Garde, et par raison de ne pas la nommer, de venir au BBR. Bah, que ce monsieur sera sûr, La Joyeuse Garde, comme beaucoup de nos amis libraires, seront présents au BBR, bien évidemment.
Merci. Alors, la semaine prochaine pour un dernier état de la question en ce qui concerne les... les BBR.
À la semaine prochaine, ça.
Avant d'aller sur place samedi et dimanche. Merci Sylvain, merci Olivier. On écoute un tout petit bout de belle musique, vous allez voir, je vous expliquerai après ce que c'est, et pendant qu'on reçoit nos invités de la suite de l'émission. Là, vous devez vous demander ce que c'est. Eh bien, c'est un disque qui vient de ressortir. C'est un vieux disque. Non, ce n'est pas moins de grande qualité. C'est un disque qui s'appelle Marche militaire de la Russie impériale. Et il s'agissait de la marche des chasseurs à pied de la garde. Et c'est paru. C'est un disque qui est édité par la SERP. Est-ce que vous savez ce que c'est que la SERP ? 6 rue de Beaune, 75 0, je ne sais pas quoi, à Paris. Enfin, en tout cas, c'est la SERP. Voilà. Roger Mine est toujours avec nous. Il participe à cette émission.
Je suis d'une patience admirable.
D'une patience admirable parce qu'il a plein de choses à dire, mais enfin, il
fait au moins 2 heures que je n'ai rien dit.
Facilement, oui, facilement 2 heures. Et alors là, je vous ai réservé une surprise parce que il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Un beau jour, je reçois une lettre d'une auditrice qui me dit voilà, on m'a distribué ce tract. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'aimerais bien que vous vous renseigniez. Alors j'ai pris le tract et je me suis renseigné. J'ai tout simplement téléphoné au numéro de téléphone qui était porté sur le tract et je suis entré en contact avec un monsieur qui s'appelait monsieur Steve Pacht ou Steve, je sais pas comment.
Steven,
voilà.
C'est comme Stéphane, mais Steven, c'est la version anglaise.
Et alors Steven Pacht, et puis il y avait un autre monsieur qui s'appelait Jacques Guggenheim, et cette organisation avait un titre assez surprenant, pour dire le moins. Ça, c'est une association qui s'appelle Juifs pour Jésus. Alors, quand on est comme moi un catho traditionnaliste, c'est-à-dire que quand on lit quelque part Juifs pour Jésus, on est quand même un petit peu ébranlé dans ses convictions. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on appelle et on dit à M. Steven Pacht, est-ce que vous voudriez venir m'expliquer à Radio Courtoisie ce que c'est que les Juifs pour Jésus? Parce qu'il semble qu'il y ait une contradiction dans les termes. On est juif ou on est pour Jésus, mais ça paraît quand même assez bizarre d'être les deux. Parce que si on est pour Jésus, on n'est plus juif. Enfin, voilà. Alors donc, j'ai appelé Steven Pacht qui m'a dit, mais bien sûr, je viendrai. Enfin, il m'a dit, je vais réfléchir, je vais voir. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, d'accord, je viens. Je viendrai avec Jacques Guggenheim. Et puis ensuite... un ami, j'ai découvert qu'on avait beaucoup d'amis, très curieusement. Plusieurs personnes m'ont écrit en me disant « Mais vous allez recevoir nos amis de l'association Juive pour Jésus, et vous devriez demander également à Joël Ruben de venir. » Alors, je connais pas du tout, je dois dire, ces gens qui vont parler autour de ce micro, je sais pas du tout ce qu'ils sont et tout, mais le titre de leur association, le nom de leur association m'avait frappé. Et puis alors, pour tout dire, entre-temps, j'ai pris connaissance de plusieurs articles parus dans la presse américaine, notamment sur certaines activités d'une association qui s'appelle
l'Anti-Defamation League. Et j'ai découvert que l'Anti-Defamation League avait été prise la main dans le sac par le FBI parce qu'elle avait infiltré des espions dans diverses organisations américaines et internationales. Et notamment, là, j'ai vu ressortir ce nom que je connaissais pas du tout, de Juifs pour Jésus. On a donc découvert que l'Anti-Defamation League avait introduit des agents à l'intérieur de la branche américaine, probablement de Juifs pour Jésus. Alors, j'ai dit, mais il faut absolument maintenant que je sache que c'est que cette organisation. Parce que ça me paraît quand même quelque chose d'étrange. Donc, voilà, je vous ai exposé, j'allais dire, quel lapsus révélateur, Stephen Pacht, Jacques Guggenheim et Isabelle Ruben, les conditions, c'est ça, c'est Isabelle ?
Joël.
Pourquoi je dis Isabelle ? Parce que je lis mal ce que j'ai écrit, Joël. J'ai écrit Joël, mais de loin, ça fait Isabelle quand on est, comme moi...
Mais Isabelle, c'est joli.
C'est joli,
Joël,
Isabelle.
C'est mieux. Joël, ouais. C'est mieux.
Non, ça se vaut, c'est bien, les deux sont jolis aussi, c'est des jolis prénoms. Donc voilà les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Alors la première raison, elle est contenue dans le titre, enfin la première question est contenue dans le titre de votre, dans l'intitulé de votre association. Comment peut-on être à la fois juif et pour Jésus ? Il y a une contradiction insoutenable, non ?
Pas du tout. La question qui se posait dans le Nouveau Testament, c'était plutôt le contraire. Comment est-ce qu'on pouvait être non-juif et croire en Jésus.
Ça, Paul a répondu une fois pour toutes.
Oui, il a dit qu'un non-juif qui voulait suivre Jésus ne devait pas devenir un juif. Mais c'était tout à fait évident qu'un juif qui acceptait Jésus comme son Messie, comme son Sauveur, restait juif. Paul lui-même, quand il défendait sa foi devant une foule à Jérusalem, il a commencé en se défendant en tant que juif.
Alors, on rentre carrément dans le cœur du sujet parce que j'ai été pendant longtemps un fidèle auditeur des conférences de l'abbé de Nantes. Et l'abbé de Nantes avait une théorie, je voudrais pas la trahir en la résumant, mais enfin en gros, il disait que les catholiques aujourd'hui sont dans l'orthodromie, disait-il, donc dans le droit fil de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que c'est nous, catholiques, qui sommes les détenteurs de la vérité vétérotestamentaire, les juifs d'aujourd'hui étant en revanche étrangers à cette vérité, dans la mesure où ils sont devenus talmudistes, ils sont devenus une autre religion, ils ont pris une direction différente, ils sont en quelque sorte en biais, ils sont perfidés, en travers par rapport à la foi. Alors, est-ce que c'est ça que ça veut dire que...
Je dirais c'est une doctrine qui a fait beaucoup de tort au christianisme. Je dirais aussi que parmi les communautés juives, il y a beaucoup d'opinions. Mais c'est surtout vrai que, en tant que juif, dans la communauté juive, on a réagi contre les dogmes dans l'Église soi-disant chrétienne qui étaient anti-juifs.
Nous avons un problème. Jacques Guggenheim. Alors, j'avais demandé si le micro fonctionnait, on m'avait répondu oui, et il fonctionne évidemment pas. Si, voilà, il marche maintenant. Enfin, il fonctionne. Il transmet votre voix, Jacques Guggenheim.
Il y a un problème. Essayez d'entendre ou d'essayer de comprendre ce que, en tant que juifs, nous ressentons. Nous vivons dans une civilisation qui se dit chrétienne, et où nous avons beaucoup souffert, et pas seulement nous, d'autres peuples, d'autres races. Mais le jour où nous avons découvert que Jésus était le Messie, nous sommes aperçus qu'il y avait d'autres qui croyaient également que Jésus était leur Sauveur, leur Christ, leur Seigneur. Et alors, c'est l'Église, le corps de Christ. Mais il faut faire une différence entre la civilisation chrétienne et l'Église. Et c'est pour certains déchirant et douloureux.
Alors, vous venez de dire une chose qui mérite d'être, à mon avis, éclairée ou précisée. Vous avez dit, nous avons découvert que Jésus-Christ était le Messie. Mm-hmm. Pour vous, juifs, ça a un sens, précis, historique, philosophique, ça a un sens très très profond, le mot de Messie. Pour nous, catholiques, Jésus-Christ est le Messie, mais il est Messie parce qu'il est fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu incarné,
oui,
mort sur la croix, pour notre rédemption, est ressuscité. Alors, est-ce que ce programme, si j'ose dire en termes informatiques, vous l'acceptez?
Nous pourrions dire ensemble le credo. Le problème, c'est que nous n'aurions peut-être pas, sur certains mots, exactement le même...
On a vraiment un problème de micro, je suis désolé, hein, mais j'ai peur qu'on vous entende passer. On a une difficulté avec le micro. Peut-être que vous pourriez... Si vous voulez bien parler dans celui-là.
Je pense que nous pourrions prononcer ensemble tous les termes du credo, mais il faudrait encore que chaque mot ait réellement le sens que la Bible, les Écritures lui donnent. Mais nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, que Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous croyons qu'il est le Messie et nous étudions même les racines du mot Messie ou Christ, celui qui a reçu la triple onction, et il y aurait bien des choses à dire à ce sujet, parce que on parle de Jésus-Christ, mais finalement la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que le Christ, ce titre.
C'est loin du Seigneur.
Celui qui a reçu l'onction pour être roi, pour être prophète et pour être souverain sacrificateur.
Alors c'est ça qui est très extraordinaire dans votre... dans ce que vous représentez, c'est que pour vous, les mots qui sont les mêmes que pour nous ont une saveur différente, non? C'est-à-dire que on a l'impression que le fait que vous êtes toujours rattaché à cette tradition.
Attendez, quelle tradition?
La tradition juive,
la tradition
vétérotestamentaire. Hein,
voilà, d'accord. De la loi des prophètes.
Voilà.
D'accord.
Cette tradition à laquelle vous êtes rattaché, comme nous d'ailleurs, mais nous on y est rattaché. Je dirais dans un deuxième temps, en quelque sorte, par adhésion, tandis que vous y êtes attaché par essence. On a l'impression que ça vous donne une appréciation plus primitive, je sais pas si je...
Peut-être plus exigeante.
Peut-être, mais des mots. En tout cas, plus primitive, c'est certain. Et vous avez fait une différence tout à l'heure. Vous avez dit, il faut pas confondre la civilisation... Enfin, l'Église en tant qu'élément de civilisation.
Non, vous changez déjà les mots que j'ai dit. C'est pas l'Église, c'est la civilisation chrétienne, où il y a des catholiques, des protestants, des orthodoxes. C'est la civilisation chrétienne dans laquelle nous vivons. Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre que Dieu a planté au fruit qu'il porte. Et là où, en tant que juif, on a été méprisé, emprisonné, assassiné, mais d'autres peuples aussi... Parfois même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on est en droit de se demander, est-ce que c'est le corps de Christ, l'Église, que le Messie a voulu, ou est-ce que c'est autre chose?
Mais quand vous êtes en France, par exemple, en France ou en Allemagne ou en Angleterre ou aux États-Unis, peu importe, quand vous êtes dans un pays, présent dans un pays, en tant que juif, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui est à la fois intégré à une société... géographique et intégré à une tradition qui dépasse les frontières. Est-ce que le fait d'être chrétien pour vous, ça a une importance déterminante? Est-ce que ça vous rend plus proche? Je veux dire, bon, je vais m'expliquer très clairement. Est-ce que vous croyez qu'un juif pour Jésus, c'est-à-dire un juif messianique, un juif qui croit que le Christ est le Fils de Dieu incarné, et le Fils de Dieu est Dieu incarné, a plus de facilité à vivre en dehors d'Israël qu'un autre?
Non, il a une double difficulté. D'expliquer à ses parents et à ses amis, le peuple juif, qu'il a reconnu que Jésus était son Messie, parce qu'on nous en veut, et c'est normal. Et puis essayer d'expliquer aussi à ceux qui nous entourent qu'il faut faire la différence entre la civilisation chrétienne et le corps de Christ. Christ est la tête de ce corps et il doit se manifester, ce corps, par des fruits qui sont des fruits de bénédiction.
Alors Jacques Guggenheim, ça fait deux ou trois fois que vous revenez là-dessus, sur cette, vous insistez beaucoup sur
c'est le point
votre étrangeté ou votre stranéité, je ne sais pas comment il faut dire, par rapport à la civilisation chrétienne. Est-ce que ça veut dire que pour vous... est-ce que ça veut dire que vous vous situez en opposition à cette civilisation?
Vous avez parlé des Juifs en Allemagne. Je vous fais remarquer qu'il n'y en a plus beaucoup. En Pologne non plus. En France, nous avons pu fuir en Suisse sans être foulés à la frontière. Mais en tant que Français ayant 100% de sang juif, j'étais bon pour Drancy et pour être déporter et finir dans les camps d'extermination. Mais je me sens français, je me sens membre de ce pays, j'ai fait les beaux-arts, j'aime la musique, je vis dans ce pays, mais c'est un fait que je me sens mal à l'aise dans une civilisation qui se dit chrétienne et qui dans le passé et peut-être dans l'avenir a fait des choses terribles.
Est-ce que vous croyez que ces choses dont vous parlez sont imputables à une tare des sociétés bon, enfin, le national-socialisme, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui ai décidé que ça allait s'appeler comme ça. Le stalinisme, le bolchevisme, le socialisme, ce sont des mots qui ont été inventés par des hommes politiques. Or, aujourd'hui, on a l'impression que ce que les Juifs reprochent aux chrétiens, c'est d'être non pas les partisans d'un système politique qui a... persécuter les Juifs, mais d'être partisan d'une religion qui serait une religion persécutrice. Or, est-ce que vous, donc, pour en finir sur ce plan, est-ce que vous avez l'impression que c'est l'Église catholique qui a été ou à l'origine de cette persécution ou complice de cette persécution, ou est-ce que vous êtes conscient qu'il s'agit d'un système de persécution qui s'est développé en dehors de la foi?
Ça dépend les époques, il y a 5 siècles en
Espagne. Non, je veux dire, là, récemment.
Bon, on aurait voulu que des voix se fassent entendre beaucoup plus fort. Il y a eu d'admirables voix qui se sont fait entendre, le cardinal Gerrier, le pasteur Bögner, mais c'était quand même des exceptions magnifiques, mais des rares exceptions. Dans l'ensemble, il y a eu un silence, sinon lâche, parfois même complice.
Dans l'ensemble, vous croyez vraiment ces voix vous suffisent pas? Enfin, Pie XII a été quand même reconnu comme un des grands défenseurs du peuple juif par Madame Golda Meir, si je ne me trompe pas.
Oui, ça c'est des éléments, des mots diplomatiques. Mais pendant la guerre, on aurait voulu et même avant la guerre que sa voix se fasse entendre de façon plus claire.
Oui, vous auriez
ça aurait été très bien.
Vous auriez c'était ça, mais aujourd'hui, est-ce qu'avec le recul, en tant que chrétien, vous ne voyez pas qu'il y avait une espèce de nécessité dans cette attitude? Cette attitude était imposée. Je dis bien en tant que chrétien, attention.
Oui. Mais vous savez, encore une fois, je fais partie, en tant que chrétien, du corps de Christ. Et j'ai des amis, des frères, des sœurs qui sont catholiques romains, qui sont orthodoxes, qui sont baptistes, qui sont réformés, luthériens. Et il y a aussi, à côté de ça, un monde qui, pendant la guerre, a quand même été indifférent à ce qui s'est passé vis-à-vis des Juifs, mais aussi vis-à-vis d'autres ethnies et d'autres peuples.
Ça a été le cas à peu près dans toutes les facettes du christianisme que vous évoquez. Il n'y a pas une espèce de... de monopole catholique sur ce plan-là.
Non, tout à fait.
Toutes les églises ont leur paquet.
Oui, mais alors est-ce que c'est toujours l'église de Christ? C'est ça la grande question. Jésus a bien dit, on reconnaîtra mes disciples à l'amour qu'ils auront d'abord les uns pour les autres et au témoignage qu'ils rendront à l'extérieur. Alors on est obligé de se poser la question. Où est l'église? Où est le corps de Christ?
Alors, quelle est votre réponse?
C'est le rassemblement de tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Messie, leur Seigneur et leur Sauveur, à condition de donner à ces mots leur sens vrai, profond, réel.
Alors justement, pour parler du sens vrai, profond et réel, il y a toute une tradition en France, par exemple, qui fait, toute une tradition à laquelle j'adhère personnellement, je le dis clairement, qui fait du Christ, le Christ roi, qui fait du Christ et de la Sainte Vierge, Notre-Dame, la Reine de France, etc. Comment vous abordez-vous cette tradition, cette espèce de remise en ordre d'une tradition spirituelle par rapport à une tradition matérielle?
Je dirais quand même une chose. Pour nous, Christ est celui qui est le chemin qui mène au Père. Marie, nous avons un immense respect, mais nous ne pouvons pas l'associer ni comme rédemptrice, ni comme médiatrice par rapport à notre foi.
Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Donc vous n'êtes pas catholique, alors?
Je suis catholique dans le sens d'universel, je ne suis pas romain.
Vous n'êtes pas catholique romain. Bon, on va, je crois, faire une pause de 2 minutes pour inverser la cassette et on reprend cette conversation.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, document d'archives du 15 septembre 1993, diffusé le dimanche 2 novembre 2014 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Alors, sans perdre une minute, on reprend cet entretien avec les représentants d'une association qui s'appelle Juifs pour Jésus. Je reçois donc Steven Pacht, Jacques Guggenheim et Joël Ruben. Alors, je me tourne maintenant vers Joël Ruben parce que j'ai une liaison facile. Moi, je crois qu'une des grandes, une des raisons très 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 fortes pour lesquelles aujourd'hui la religion catholique est une religion en pointe, qui devrait normalement réaliser sa mission, c'est le rôle, c'est la coïncidence entre le fait que la société commence à comprendre que la femme joue un rôle capital dans la vie, bien entendu, puisqu'elle la porte, elle la transmet, etc., et le rôle que les catholiques, que nous autres catholiques avons toujours donné à la femme à travers Notre-Dame, à travers la Sainte Vierge. Et alors, curieusement, il y a une espèce de paradoxe gênant qui se produit, c'est qu'à mesure que la femme prend de plus en plus d'importance dans la société, ce qui est tout à fait normal, je crois, la religion catholique, qui est la seule religion au monde qui donne à la femme cette importance de médiatrice, ce que vient de discuter d'ailleurs ou de contester Jacques Guggenheim, cette importance de cette religion catholique est en train de perdre son pouvoir. Alors, vous, Joël Ruben, vous êtes une femme, vous êtes une femme juive qui croit que le Christ est le Dieu incarné, ressuscité pour notre rédemption. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques Guggenheim quand il nous dit que la Sainte Vierge n'a pas un rôle de médiatrice ?
Pleinement. Je crois que la parole de Dieu nous enseigne d'une manière claire qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ fait homme. Et que la Sainte Vierge, tout au moins Marie ou Myriam, parce que c'est son vrai nom en hébreu, est celle qui a porté le Fils de Dieu. Dieu a vu en elle la possibilité de porter ce qu'il voulait donner au monde. Mais il n'a pas fait d'elle quelqu'un d'exceptionnel. Elle n'avait rien d'exceptionnel.
C'est quand même une démonstration. Enfin, on ne va pas entamer un débat théologique. Ce n'est pas le moment, puis je n'ai pas l'envergure. Mais le fait même que Dieu ait choisi une femme ou une jeune fille ou une jeune vierge pour porter son incarnation, ça, si c'est pas de la médiation, j'y connais rien, j'ai rien compris.
Je crois que tout simplement, ça correspond au fait que la femme enfante. Il n'y a pas une chose plus naturelle. Dieu a donné cette grâce à la femme de pouvoir enfanter, et donc de donner au monde.
J'ajouterais que si il avait voulu, il aurait pu faire apparaître Dieu comme tous les intermédiaires, ou le Christ comme tous les intermédiaires ou comme tous les médiateurs d'une façon miraculeuse. Il aurait pu être découvert dans un panier d'osier flottant sur la mer, donc il n'avait pas besoin d'avoir d'incarnation humaine. C'est ça l'important, je crois, non ?
Mais le miracle est dans cette situation. Le miracle, c'est que Dieu s'est limité dans la peau d'un homme et qu'il a été le fruit d'une femme qui était vierge, qui était absolument un être qui n'a pas connu, sur le plan physique, de rapport avec lui. Qui a eu donc cet enfant d'une manière dont Dieu l'a souhaité, c'est-à-dire d'un germe sain, parfaitement pur, sans tache, puisqu'il est dit que quand même l'homme a péché, et que si son fils était né d'une manière naturelle, il aurait porté en lui les fruits du péché de l'humanité.
Donc vous croyez à l'Immaculée Conception, mais...
C'est
l'Immaculée Conception.
Nous croyons que cet enfant a été conçu par le Saint-Esprit.
Oui.
Oui. Et donc, mais qu'ensuite, dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit que Joseph et Marie ont eu des enfants dans les conditions normales d'un couple en Israël.
et que l'Immaculée Conception, c'est l'idée qu'elle est toujours vierge. Non, elle était vierge lorsqu'elle a reçu ce...
L'Immaculée Conception, c'est... Enfin, à mon sens, c'est pas ça, l'Immaculée Conception, c'est qu'elle a... été, c'est, là, là, vraiment, il y a un problème qu'il faudra régler une fois pour toutes un jour, parce que c'est un malentendu terrible. L'Immaculée Conception n'a rien à voir avec la mise au monde du Christ. L'Immaculée Conception, c'est la naissance de la Vierge exempte du péché originel, point à la ligne.
Et quand Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur car il a jeté le regard sur la petitesse ou la bassesse de sa servante », je n'ai pas à savoir quelle
il
est
a
la...
Pas... Ah non, il n'y a pas ça.
Elle Grandpont et Marie tout traduisent. Si, il y a quand même un terme. Elle dit en Dieu mon sauveur. Elle a besoin d'un sauveur.
C'est très très drôle parce qu'en fait, on s'aperçoit. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais on est en train de. Ne le prenez pas mal ce que je veux dire. On est en train de faire du pile-poule. Mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Je crois qu'il y a une espèce de génie.
Je sais pas comment, mais continuons peuple. Avec le pile-poule. Où est-ce que c'est marqué dans la Bible que Marie est médiatrice? Tandis...
Non, il faut. Écoutez, vous reviendrez, je vous ferai venir un théologien musclé, alors il pourra répondre. Moi, je ne peux pas répondre. Moi, je suis catholique, tout simplement. Je crois à Marie médiatrice, absolument.
Est-ce que vous avez des textes de du Nouveau Testament
pour non, j'ai simplement ce que m'ont dit mes curés.
Oui, mais alors ça, c'est le même problème dans le judaïsme avec le Talmud.
Oui, expliquez-moi ça.
Eh bien, il y a une tradition dans le judaïsme avec des bonnes choses et des moins bonnes et des mauvaises. Et quand Jésus affronte les hommes de la tradition, il leur dit qu'ils ont un obstacle, toute cette tradition qui est venue les étouffer. Qu'ils reviennent donc à la loi, aux psaumes, aux prophètes et je dirais qu'aux chrétiens, que les chrétiens reviennent à l'évangile, aux épîtres.
C'est quand même très intéressant ce qui est en train de se passer parce qu'on est en train de disputailler sur des problèmes, sur des questions on est en train de pinailler. Je disais tout à l'heure du pile-poule, mais chez nous ça s'appelle du pinaillage. En réalité, la vraie question, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir ce soir, c'est parce que c'est pas pour discuter de ça. C'est parce que je voudrais que vous m'expliquiez où vous avez puisé le courage. De faire cette révolution personnelle à l'intérieur d'une société qui consiste pour un juif à dire « Eh bien, moi, je crois que le Christ est fils de Dieu. »
Je pense que le premier pas, c'est une expérience personnelle du Christ. J'ai lu avec attention une biographie du cardinal Lustiger, une traduction en anglais. Il a parlé de son expérience d'avoir lu l'Ancien Testament qui découlait sur le Nouveau. Et là, d'avoir trouvé en Jésus son Messie, son Sauveur. Pour moi, j'ai fait l'expérience personnelle de trouver une vie spirituelle réelle avec le Christ, avec le Messie.
Mais alors, vous, pour vous, comment ça s'est passé? Parce que, voilà comment j'imagine les choses. On est dans son système. Hein. On est juif, les parents sont juifs, etc. On est élevé dans une tradition religieuse plus ou moins vivace, plus ou moins forte. Et puis, il y a un moment où on se dit, alors par l'intermédiaire, je ne sais pas, d'une rencontre, d'une lecture, d'une révélation, d'une inspiration, d'une intuition... On se dit, mais après tout, oui, le Messie, il est là. Le Messie qu'on attend, nous, Juifs, pour la fin des temps, il est passé il y a 2000 ans, et c'est le Christ. Ça, un premier effort qui est difficile à imaginer. Mais ce qui est terrible, c'est de dire à ses parents, par exemple, « Bon, papa, écoute, je suis désolé, mais moi, maintenant... je marche plus dans tes histoires. Moi, je crois que le Christ est le Fils de Dieu et non pas l'imposteur. Où est-ce que vous avez... Dans quel réservoir d'énergie avez-vous puisé le courage de dire ça à votre entourage, à votre famille, à vos amis?
Je dirais, premièrement, dans le monde juif, il y a toujours eu des juifs qui s'intéressaient à la personne de Jésus. Le rejet, ce n'est pas... Premièrement, la personne de Jésus, c'est ce qui a été fait au nom de Jésus qui obscure un peu la personne. Il y a eu des écrivains, dernièrement, Scholemach, Jacob Klausner, Einstein a parlé de Jésus en étant la lumière formidable du Nazaréen. Alors, des juifs s'intéressent à la personne de Jésus. Deuxième chose, je dirais, pour vous, peut-être, Pierre est le fondateur de l'Église catholique. Pour moi, il était quelqu'un qui pêchait les poissons, un juif, qui était un des disciples. Il était le fondateur, peut-être, de l'Église à Jérusalem. Il était un apôtre parmi les juifs. C'était Paul, l'apôtre Paul, qui est devenu l'apôtre aux païens. Pour lui, il n'y avait pas question que ce n'était pas juif. Je pourrais dire simplement, il n'y a rien de plus juif que de croire dans le Messie. Et la question, c'est qui est Jésus? Malheureusement, je dirais, dans l'Église, comme Jacques l'a dit, on a fait plus d'attention à la tradition que à la parole de Dieu. Je suis très content que, depuis le deuxième concile Vatican II, il y a le désir d'ouvrir la parole de Dieu, la Bible, et de discuter là-dessus. Je connais moins bien la tradition catholique que la Bible.
Jacques Guggenheim, non, pour vous, comment ça s'est passé, cette révolution personnelle? Est-ce que ça a été une révolution personnelle?
Oui. J'avais 10 ans, 1941, et j'habitais à Lyon avec ma famille. Et un jour, le copain avec qui j'avais l'habitude de jouer dans la cour de l'école m'a flanqué un coup de poing dans la figure en me disant « Tiens, c'est pour toi, sale juif ». C'était rien du tout en 1942, un coup de poing comparé à ce que d'autres ont souffert. Nous avons pu nous réfugier en Suisse, et ça aurait pu être aussi en France. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des chrétiens dignes de ce nom, des paysans. Et quand nous sommes allés chez eux, ils nous ont reçus en disant « C'est pour nous un grand privilège de recevoir des juifs dans notre maison ». Car nous avons une grande dette de reconnaissance envers ce peuple, le peuple juif. Dieu nous a donné un trésor, la Bible, et ce trésor, il nous l'a donné à travers votre peuple. La loi, les psaumes et les prophètes étaient des juifs. Les disciples, les apôtres de Jésus étaient des juifs. Jésus lui-même était un juif. Alors, dans une discussion qui a suivi, je leur ai dit, au fond, vous, les chrétiens évangéliques, vous n'êtes que des voleurs. Vous nous avez volé notre héritage. Et ils m'ont répondu, non, nous ne sommes pas des voleurs. Ta part t'attend, mais va la chercher là où elle se trouve. Et c'est eux qui, par jalousie, m'ont poussé à lire la loi, les psaumes, les prophètes, la Bible, et à vérifier si la première alliance et la nouvelle alliance avaient des liens de cohérence. Et à un certain moment, c'était tellement évident qu'il a fallu que je croie et que je le dise.
Mais comment l'avez-vous dit, justement? C'est ça, comment ça s'est passé dans...
Alors, je ne l'ai pas dit, je me suis converti au christianisme. J'ai dit, j'ai découvert que Jésus est bien le Messie dont Moïse, dont les psaumes, dont les prophètes ont parlé.
Êtes-vous baptisé?
Oui.
Mais Donc vous êtes allé plus loin que cette constatation. Vous avez dit à partir du moment où je constate...
Mais le mikvé, le baptême d'abord de Jean-Baptiste et ensuite de Jésus et des apôtres était un acte profondément juif. C'était une immersion dans l'eau pour des êtres qu'il avait demandé. Au nom du Père, du Créateur... Au nom du Fils, le Sauveur, et par l'Esprit, au nom de l'Esprit de Dieu. Tout ça est profondément juif. Et...
Et comment ça se passe? Alors, je vais me tourner vers Joël Ruben, et non pas Isabelle. Comment ça se passe avec vos familles? Parce que je crois que vous êtes... Enfin, vous devez avoir à peu près l'âge de Stephen Pacht, mais oui. J'allais dire que vous êtes la plus jeune, parce que vous, ouais, vous non, êtes une toute jeune femme. Chose, ouais. Donc, vous... Pour Jacques Guggenheim, c'est un homme d'une cinquantaine d'années, on voit bien...
Oh non, c'est bien gentil, j'ai 62 ans.
Ah ben, vous
j'avais 10 ans en 41.
C'est vrai, vous avez dit votre âge. Mais vous les portez bien, donc on sent que vous pouvez faire face. Mais pour une jeune femme comme ça, en plus dans un milieu juif, une jeune femme, c'est quand même quelque chose de très particulier. Comment ça se passe quand vous dites ce à quoi vous croyez, quand vous proclamez votre foi, comment ça réagit?
Je crois que chaque famille juive doit réagir de manière différente, mais il y a des points communs. Et le point peut-être qui s'est produit dans ma propre famille, c'était le fait où mon propre père m'a dit « je te renie ». C'est-à-dire que par le fait que j'avais reconnu en Jésus le Messie, et donc mon Messie, mon Sauveur, a été pour lui un trouble. Et sa manière de l'exprimer, ça a été « je te renie ». C'est-à-dire « je te renie ». En quelque sorte, je crois qu'il m'acceptait, moi, toujours, en tant que fille. Mmh. C'était pas le problème de ma personne, mais c'est ce que, tout d'un coup, par ma foi, j'avais reçu comme révélation de Jésus. Et c'est ce qui a produit en lui l'impact de simplement me dire « je te renie ». Donc, il a une attitude, je dirais, verbale assez violente, qui a occasionné pour moi beaucoup de réflexions, et qui, avec le temps, maintenant, ça fait quand même près de 8 ans, a donné, je pense, des sujets de réflexion à mon propre père.
Mais il a continué à vous voir. Vous avez, disons d'une que, façon
bon, d'une façon
normale, je dirais.
D'une façon réelle, il s'est produit pendant un an et demi. Je n'ai plus le droit de mettre les pieds chez mes parents, quoi, dans leur propre maison. Puis au bout d'un an et demi, avec certaines situations, les choses se sont tout à fait réglées, tout à fait normalement.
Je pense que si mon fils me disait « je suis devenu bouddhiste », j'aurais la même réaction. Je dirais « écoute, va pendant au moins pendant un an, le temps d'avoir envie de le revoir », mais ça, je crois que ça serait aussi dur que ça. Alors, comment interprétez-vous, Stephen Patch, le rôle que vous avez, vous, à jouer à partir du moment où vous avez choisi cette direction? Est-ce que vous pensez que vous avez une action particulière, puisque vous distribuez des tracts, vous essayez de vous faire connaître, c'est donc vous pensez que vous avez une action particulière à mener? Est-ce que cette action, vous pensez qu'elle est plus précisément destinée au milieu juif, ou est-ce qu'elle est destinée à l'ensemble de la population, je dirais, pour choisir un mot simple?
Ce que m'intrigue en France, je trouve qu'il y a une grande recherche spirituelle. Les gens sont élevés dans des écoles maintenant où ils lisent pas la Bible, ils connaissent peu sur Jésus. Alors le non-juif pour Jésus interpelle certainement des juifs, mais aussi des gens de souche catholique, des gens qui se disent athées, des gens qui sont musulmans. Il y a tous les Français qui s'intéressent, mais c'est pas que nous voulons promouvoir l'association, nous voulons parler de Jésus. Nous avons personnellement fait une rencontre spirituelle qui nous a changé la vie, qui nous a donné la paix. On parle beaucoup de paix en ce moment. Pour moi,
vous avez l'impression d'accomplir, d'être missionné, de faire quelque chose pour lequel vous avez été choisi.
Oui, je pense Jésus, à la fin du premier évangile, a dit à ses apôtres, allez faire des disciples, de mes disciples, de toutes les nations.
Et en commençant par Jérusalem.
Ouais. Mmh. Et je pense le chrétien qui a expérimenté ce pardon, cette joie qui vient du Messie, veut le partager. Ça vient de soi-même. C'est un changement. C'est pas quelque chose de imposé, quelque chose qui soit forcé. C'est une réponse à une expérience.
Alors, je vais faire une chose qui va vous paraître bizarre. Je vais interroger quelqu'un qui n'est pas plus, je crois pas beaucoup plus proche de vous que de moi. Sur ce plan-là, hein, je peux dire sur le plan spirituel, je crois, je ne vais pas révéler de secret, Roger, mais tu n'es pas un catholique de tradition fervent. Enfin,
je suis né de deux grandes familles catholiques, je suis baptisé, j'ai fait ma première communion. Où tu veux en venir
Quelle réflexion ça t'inspire, cette existence d'un mouvement qui réunit des gens qui se réclament de la tradition juive et de l'incarnation? Moi, je suis quand même abasourdi, je dois dire.
J'ai du mal.
Ça me secoue énormément.
J'ai du mal. J'ai écouté très attentivement la conversation qui a effleuré la théologie. Moi, je ne suis pas docteur en théologie. J'ai beaucoup étudié les religions, mais je suis plutôt pythagoricien que chrétien.
C'est une façon élégante de dire les choses, oui.
Je me rappelle quelqu'un qui officiait à ce micro qui m'a dit un jour, c'était pas toi, je suis un païen catho. Et c'est assez bien trouvé comme expression. Je trouve qu'en France, il y a énormément de millions de païens catho. C'est une expression vulgaire, mais qui n'est pas méchante et qui ne vise personne. Je n'ai pas de réaction ou de commentaire à faire à ce que ces deux messieurs et cette jolie demoiselle à ma droite ont dit.
Il n'oublie jamais quand même de dire que les demoiselles sont jolies.
Pour moi, c'est beaucoup plus important que tout ce qu'ils ont dit. C'est la vie, c'est la vie. Je suis amoureux, je le dis publiquement, de Marie. Je suis un amoureux de Marie, comme vous disiez, mademoiselle Myriam. Je suis amoureux d'elle. J'ai été élevé dans l'amour de Marie. Et le reste, pour moi, c'est de la technicité très haute. Je pourrais en discuter.
Non, mais c'est bien ce que tu dis. Je suis très content que tu aies dit ça, parce que c'est exactement le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que, je veux dire, moi, je suis très, très sensible à votre démarche. Et elle me plaît énormément, parce qu'elle me paraît tellement aller dans le sens eschatologique, en plus. Ça, c'est certain, puisqu'on sait par les prophéties, par les annonces, par tout l'univers eschatologique, on sait que le jour où les juifs seront convertis, eh ben, on arrivera au bout du chemin.
ce terme de converti.
Converti, pardon, oui, je sais que ça peut vous déplaire. Je veux dire, le jour où on sera réunis, hein, dans la vérité, on sera au bout du chemin. Mais quand vous me dites, là, ce qui m'a beaucoup surpris, ce qui me gêne, je dois dire, ce que j'arrive pas à accrocher, c'est sur cette question de la Sainte Vierge. Pour moi, la foi passe, je dirais, obligatoirement par ce chemin, mais d'une façon logique, presque mécanique.
Mais comment vous expliquez Marie est citée abondamment dans Luc, dans Jean, dans les autres évangiles, quand même. Et puis ensuite, dans tout le reste du Nouveau Testament, uniquement au début des Actes des Apôtres, pour dire qu'elle était avec les disciples dans la chambre haute le jour de la Pentecôte.
Oui.
Et puis ensuite, on n'en parle plus.
J'essaye pas d'expliquer ça. J'ai pas d'explication. Mais je crois, on a Marc Dem toujours au téléphone. Il patiente toujours.
Alors
Marc, je suis désolé. Ne croyez pas qu'on vous abandonne. Je sais que vous êtes avec nous, comme disait Mireille Miroska. Mais je sais que vous vous intéressez à cette conversation. Enfin, j'espère que vous y intéressez. Et je vais vous demander de prendre la parole. Marc Dem, qui est avec nous, est l'auteur d'une lettre confidentielle d'information religieuse. C'est un spécialiste des questions religieuses. Il a écrit plusieurs ouvrages sur ces questions. Vous pouvez l'entendre si vous mettez le casque sur vos oreilles. Je vous en passe là.
Merci.
Voilà, chacun son casque. Et vous l'entendrez quand il prendra la parole. Non, je crois que, pour répondre à la question que posait Jacques Guggenheim, c'est vrai que la présence, les évocations de la Sainte Vierge sont assez rares dans le Nouveau Testament. Mais je dirais que la simple logique, c'est ce que je disais tout à l'heure à Joël Ruben, la simple logique indique que elle est la médiatrice absolue, forcée, puisque c'est par elle que le Christ est incarné. Donc, je dirais que par retour.
Mais
alors,
Martin
voudrait dire quelque chose. Pardon, oui. Je vous donne la parole tout de suite, Jacques. Allô?
Oui, alors je voulais dire une chose, d'après tout ce que j'ai entendu, et pour répondre à la dernière question que vous évoquez, il y a ceci. C'est que le Christ ne nous a pas laissé un livre, nous ne sommes pas le peuple du livre, nous ne sommes pas le peuple de l'Évangile. L'Évangile est évidemment pour nous le plus beau des livres et le plus vrai, mais il a fondé une Église. Et le fait de ne pas reconnaître cette Église fait qu'on peut tirer de l'Évangile tout ce qu'on veut, c'est ce que font généralement les protestants. Alors, la question de la médiation de Marie, elle est donnée, ainsi que son Immaculée Conception, etc. Tout cela est indiqué par l'Église, qui est chargée du message, et c'est cela qu'on appelle la tradition. Et on parlait tout à l'heure de Vatican II, moi je regrette que maintenant, quand on entre dans une Église, on voit une table à repasser à la place de l'autel et un livre dessus. Mais ça c'est un détail d'une certaine façon. Il faut dire une chose, c'est que Vatican II a très bien rappelé, malgré que je ne sois pas d'accord avec tout ce qu'il a fait et dit, il a très bien rappelé qu'il y a deux sources, il y a l'Évangile et la tradition. Et on ne peut pas, si vous voulez, essayer d'éplucher les Évangiles tout seul pour trouver si Marie est médiatrice ou non, par exemple.
Jacques Guggenheim ou Stephen Palch, est-ce que vous voulez faire un commentaire, apporter un élément supplémentaire?
Je crois que nous sommes dans un faux problème. Notre foi, en tant que juif, messianique, chrétien ayant des racines juives, proches ou lointaines, ne repose ni sur la logique, ni sur ce que nous pensons, mais sur ce que dit l'Écriture. Et c'est vraiment dommage de penser que des chrétiens puissent dire « nous ne sommes pas des gens du livre ». Sans le livre, alors nous sommes en proie à toutes les divagations possibles.
Non, justement non, parce que l'Église est là. L'Église a été chargée de nous guider.
Oui, mais alors quand vous employez le mot Église, vous devez réfléchir que vous donnez à ce sens un sens plus fort, à ce mot, un sens plus fort que nous ne pouvons pas accepter.
Vous voyez, ça me paraît très, très... Là, on est au cœur du problème. Ça me paraît très intéressant. Parce que, en fait, vous avez une attitude qui est une attitude typiquement dans la tradition juive. Vous vous référez au livre. Et Marc Dem a une attitude qui est une attitude typiquement catholique, qui se réfère à l'enseignement de l'Église. Et on voit que, même si tout le monde soutient, par commodité de pensée, par commodité d'expression, que l'enseignement de l'Église est dans le droit fil du livre, ben on voit bien qu'il y a quand même des moments où ça a du mal, comme dirait mon ami ADG, à bejoiter. ça colle pas parfaitement. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le fait que l'Église soit primordiale par rapport au livre, alors que pour un catholique, c'est assez évident. Mais vous nous avez bien dit dès le début que vous ne vous considériez pas comme catholique, sinon...
Pas comme romain, mais voilà, comme catholique universel. Romain. Et notre chef, il est ni à Genève, ni à Jérusalem, ni à Rome, il est dans les cieux, en attendant son retour.
Alors, mais disons que nous, on considère... Nous aussi, notre chef, il est dans les cieux, mais il nous a envoyé un lieutenant qui se trouve à Rome.
Qui est le vicaire de Christ.
Qui est le vicaire de Christ. Alors, je voudrais simplement donner la parole aux auditeurs, si vous permettez, mais ça ne veut pas dire que je vous la retire. Une auditrice nous dit, voilà ce qui fonde... Vous allez dire que je fais une fixation. Voilà ce qui fonde le rôle de Marie médiatrice. La dernière parole du Christ sur la croix, c'est quand il se tourne vers Saint Jean et qu'il lui dit « Fils, voilà ta mère » et qu'il se tourne vers la Sainte Vierge et qu'il lui dit « Mère, voilà ton fils ». Alors cette auditrice nous dit « La mère intercède pour ses enfants et les enfants s'adressent à leur mère pour intercéder auprès du Père, donc ça fonde le rôle de médiatrice de Marie ». Un auditeur nous dit une chose qui me paraît effectivement, alors là, sur laquelle je crois qu'on peut être tout à fait d'accord, et je crois que vous en êtes la démonstration vivante, Dieu merci. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour changer la loi, mais pour l'accomplir.
Mm-hmm. Pour la mener à sa perfection.
Oui, c'est ça. Et puis, un autre auditeur nous dit, le Christ a dit, allez d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors il demande, est-ce que ça se rapporte aux Israélites ou aux Juifs messianiques? Selon vous, c'est à vous qu'il est demandé de...
Quand Jésus, dans les Actes des Apôtres, quitte ses disciples avant la Pentecôte, il leur dit « Soyez mes témoins, en commençant par Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il faut donc proclamer ce message de l'amour de Dieu dans le Messie d'Israël aux Juifs, premièrement, mais avec délicatesse, et puis se dire que ce n'est pas possible à la fois de parler du Messie Jésus et de mépriser les Juifs ou d'autres peuples, comme ça a été le cas dans le passé, pas si lointain.
Est-ce que vous croyez aux signes?
Je suis méfiant.
Parce que une auditrice dit...
Prudent.
Vous savez, j'ai passé un bout de musique avant de vous donner la parole tout à l'heure.
Oui.
Et bon, pour moi, c'était la marche impériale, tout simplement, la marche impériale de l'Empire russe. Mmh. Et elle dit, vous savez, cette marche impériale, en réalité, c'est un psaume dont le titre est « Qu'il est glorieux notre Seigneur sur son trône ». Hein, si c'est pas un signe, alors j'ai rien compris. Hein. Parce qu'il y a au moins une chose sur laquelle on est parfaitement d'accord, c'est que « Il est glorieux notre Seigneur sur son trône ».
Il est glorieux, oui.
Merci. Vous savez, on n'a pas fait le 10 000e de ce que je voulais qu'on fasse. Alors, il faudrait que vous reveniez. Est-ce que vous accepteriez de revenir?
Bien sûr.
Il y a beaucoup de choses qu'on a à dire. Je crois que vous avez, vous, beaucoup de choses à dire, un témoignage très important à apporter. Et je vous demanderai, tous les trois, de revenir. C'est évident qu'on n'est pas d'accord sur grand-chose. Mais on est quand même d'accord sur l'essentiel.
Le grand-chose, ce serait quand même...
Oui, Roger.
Je voudrais leur poser une... J'ai enlevé. Mais Marc est toujours au... Marc Dem est toujours...
Oui, mais je vais le reprendre
tout de
suite. Oui, c'est Roger Mine, oui.
Je vais vous poser une question très difficile à formuler, qui n'a rien à voir avec tout ce que vous venez de dire. Moi, je crois savoir, mais je n'ai pas d'informations là-dessus. Êtes-vous au courant que de grands universitaires juifs en Israël et aux États-Unis, et peut-être à Paris, sont scientifiquement, depuis très 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 longtemps, à la recherche de la parole perdue. C'est-à-dire le premier son jamais prononcé par la bouche de l'homme, Om en sanskrit, OHM. D'après certaines informations que j'ai, les Juifs sont très 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 avancés dans cette recherche, qui est absolument métaphysique.
Moi, je ne connais pas du tout, mais ça me fait penser que l'évangile de Jean commence avec « Au commencement était la parole ».
Le Verbe.
La parole, oui, le verbe, oui. La parole était et est Dieu.
Il nous suffit de savoir que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Oui, mais j'étais plus technique. Moi, je vous parlais de la recherche réelle et concrète de la parole perdue.
C'est la Kabbale. C'est une recherche des sources mystérieuses. Mm-hmm. Mais je crains que c'est une impasse dangereuse.
Exactement.
Eh bien, moi, je vais répondre par une bêtise, comme d'habitude, parce qu'il faut toujours finir par une bêtise. Je pense que le premier mot que l'homme a prononcé, c'est « aïe ».
Alors, en hébreu, c'est Oivé.
Alors, Stephen Page, est-ce que vous voulez avoir la gentillesse de donner les coordonnées de votre association, une adresse à laquelle on peut vous écrire ou un numéro de téléphone auquel on peut vous appeler?
Oui, le numéro de téléphone, c'est le 43 44 15 86. Et comme nous n'avons pas encore trouvé de local, de bureau, je vous donne l'adresse à présent. C'est chez CEPT, 7 impasse du Télégraphe, 75020 Paris.
On est voisins en plus. Donc j'espère qu'on va se revoir. J'étais très content de vous recevoir pour plein de raisons. D'abord parce que je vous avais invité, que vous avez accepté de venir, et c'était pas du tout évident étant donné l'odeur de soufre que peut dégager parfois cette émission. Et donc je suis très très. Et puis je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire et qu'on a beaucoup de choses à se dire aussi. Et j'aimerais bien que vous reveniez prochainement, Joël Ruben. Vous avez peu parlé, mais
elle est belle.
J'espère que
elle est très belle.
Oui, mais enfin, c'est hors sujet, Roger, enfin, on se calme.
Je suis désolé.
Et la beauté a été donnée par Dieu, c'est l'usage qu'on en fait qui pose problème.
Merci Jacques Guggenheim, merci Stephen
Page,
merci Joël Ruben, et puis à bientôt, on essaiera de reprendre cette conversation.
Merci.
Shalom.
Shalom.
Eh bien, paix avec vous, voilà, nous c'est ce qu'on dit, et que Dieu vous garde.
Mais Clinton a dit ça il y a trois jours.
Nous on dit Shana Tova.
Ah oui, c'est Rosh Hashana ce soir et...
Ah bah tiens, alors voilà une chose que je savais mais à laquelle j'ai pas du tout pensé. C'est quand même amusant, enfin c'est quand même étrange que vous soyez venu à cette émission le soir de Rosh Hashanah.
Encore un signe.
Un signe de plus. Merci, à bientôt. On va écouter encore un peu de musique et ça sera probablement un psaume.
Bientôt, cet automne, le 7 novembre, nous célébrerons notre 6e anniversaire. 6 années de combats quotidiens pour faire respecter notre droit d'émettre et d'être entendu. Grâce à vous, chers auditeurs qui êtes nos seuls financiers, nous avons duré et progressé sans jamais compromettre notre absolue liberté. Mais il reste à faire et à consolider. Aidez-nous en participant à notre enquête sur l'auditoire, sur l'audience, sur les conditions de réception et sur les souhaits des auditeurs de Radio Courtoisie. Nous avons besoin de savoir si vous nous recevez toujours clairement, sans brouillage, à quel moment vous nous écoutez et depuis quand. Quelles sont vos critiques, vos suggestions, vos intentions? Si par malheur Radio Courtoisie disparaissait, quelle autre radio écouteriez-vous à sa place? Aidez-nous, participez à notre enquête. Un formulaire de 4 pages est à votre disposition. Pour l'obtenir, adressez-nous une enveloppe normalement timbrée et libellée à votre nom. Vous connaissez notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Ensemble, nous continuerons à réunir ceux qui, en dépit de leur caractère divers, ont en commun l'idéal du vrai, du beau, du bien.
J'ai pas... Allô ?
Allô ?
Oui, bonsoir Marc. On a été obligé de vous retarder considérablement, mais...
Je suis assis comme toujours, donc...
Mais vous avez quand même tout le temps de nous dire les 3 informations que choisies dans la lettre confidentielle Iota Unum, qu'on peut se procurer si on ne tient pas à se contenter de la radio en écrivant une boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye-Sedex.
Oui.
Alors, dites-nous un peu ce qui se passe.
Eh bien, le prochain numéro s'intitule « Les fils de la veuve », mais je ne vous parlerai pas de ce premier article qui est un peu complexe pour en parler tout de suite. Quelques nouvelles, donc, la fameuse réunion... et déclaration commune du grand rabbin Syrah, du recteur de la grande mosquée de Paris, Philippe Bourbaker, et d'un évêque catholique, Mgr René Coste. Alors cette déclaration est assez étonnante, c'est pourquoi je l'ai retenue, car ils disent, Ensemble, nous construirons une civilisation universelle fondée sur l'amour, le respect mutuel, la vérité, la justice et la paix.
Masdu.
Oui, exactement. Exactement.
Mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Voilà, inventé par la bonne, enfin inventé, dénoncé il y a 20 ans par l'abbé de Nantes, avec génie.
C'est cela. Alors, quels points communs ont-ils pour poursuivre ce grand projet? Eh bien, comme ils ne peuvent évidemment pas se faire appel au Christ, ils font appel à Abraham. Avec cet argument, lui aussi, face à la violence, a dû lutter afin de rétablir la justice et le droit. Alors, je suis quand même allé retourner. Je suis retourné voir la Genèse pour voir si quelque chose ne m'avait pas échappé. Mais de vous à moi, Abraham a certainement été un homme très juste, mais il ne se distingue pas particulièrement par sa défense des droits de l'homme. Enfin, voilà donc une tentative qui est faite et qui rejoint, alors, deuxième chose, la réunion qui a eu lieu récemment du Parlement des religions de Chicago. Alors, le Parlement des religions a, comme vous le savez, 100 ans d'existence. Il s'est réuni, lui aussi, pour examiner un document qu'il a intitulé « Une éthique globale ». Le document a déjà été signé par le Dalai Lama, il le sera certainement par d'autres personnes, et il est fondé sur la pensée de Hans Küng, bien connu, je crois, de nos auditeurs et des lecteurs de Yota Unum. En tout cas, selon Bambi Babawa, délégué d'Ouganda, c'est un pas historique pour les peuples de cette planète.
Eh bien, nous voilà bien avancés.
Nous voilà bien avancés. Vous voulez une troisième
chose? Oui, une troisième information, ah ben, si
c'est
vous
le nouveau Big Bang. Il y avait eu le Big Bang, que je ne commenterai pas, puisque tout le monde l'a en tête, ce Big Bang est dans les oreilles. Le Big Bang qui a donc fait éclore l'univers. Mais maintenant, les espèces vivantes, alors comment sont-elles venues? Eh bien, par un deuxième Big Bang, il y en a eu deux. Le deuxième, qui est défini actuellement par des scientifiques de haute volée, s'appelle le Big Bang zoologique. C'est-à-dire qu'à partir d'une vague poussière biologique, ou même à partir de rien du tout, il a pu tirer en un temps record les poissons, les squales, les reptiles, les quadrupèdes et tout ce qui s'ensuit. Alors tout cela remet en cause ce qui était dit jusqu'ici dans les milieux scientifiques, que la vie avait mis 30 millions d'années à évoluer. Alors maintenant on dit non, peut-être qu'elle n'a mis que 5 millions d'années, ou même peut-être qu'un seul million. Donc un Big Bang qui a duré 1 million d'années, c'est vraiment une misère. Alors, on peut leur demander, enfin nous, moi je ne leur demanderai pas, mais les évolutionnistes peuvent leur demander, et l'ont fait, comment expliquez-vous que des espèces complexes ont pu dériver d'espèces simples? Alors ils ont dit, ben ça on n'en sait rien, mais si vous voulez, ça vient de ceci, et voici leur explication. C'est un dépassement d'un seuil de complexité à partir duquel s'est produit un saut qualitatif.
Ah ben, je voilà, le savais.
C'est ça.
Hein, Roger?
Ah, c'est évident.
Bah, et merci de nous avoir précisé.
C'est un Roger Mine, ça. Hein. Allez,
Marc Demme, puis-je dire un mot à Marc Demme si,
bah, évidemment.
Tu as fini avec...
J'ai terminé avec Marc.
Non, je voudrais dire à Marc Demme, qui collabore aussi brillamment à mon journal Le Cri de la Chouette, des articles qui ont des répercussions, d'ailleurs.
Ah bon?
Que Yota Unum est trop radicalement catholique. Et pas assez judéo-islamique. Après ce qui s'est passé à Washington, je crois que Marc Demme va devoir se corriger de cet intolérable sectarisme démodé.
Oui, il va falloir, oui.
Voilà.
Tu as parfaitement raison.
Merci Marc, en tout cas. À la semaine prochaine. Alors, je rappelle que si on veut s'abonner à Yota Unum, on peut écrire boîte postale 52-78-101 Saint-Germain-en-Laye-Sedex, et on demande un spécimen et on le reçoit par retour du courrier. On peut dire que ça a été quand même une soirée assez œcuménique, parce qu'on a eu...
Radio Notre-Dame.
On a eu Radio Notre-Dame. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? C'est fini avec Marc Demme. Oui, c'est le technicien qui me demandait si c'était terminé. Je comprenais pas sa gestuelle. On n'a pas tellement l'habitude encore de travailler ensemble. Donc, Roger, qui n'est pas à proprement parler un fanatique, On a reçu des représentants de l'association Juifs pour Jésus. Alors, d'habitude, Philippe Varlet me dit, ce soir, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu beaucoup d'appels. Alors là, s'il me dit ça en partant, je crois que je vais être obligé de lui dire que c'est un menteur, parce que on croule littéralement sous les papiers. J'ajoute d'ailleurs que majoritairement, c'est pas des papiers de félicitations. Hein. J'ai même été carrément excommunié par un auditeur ou une auditrice qui dit... non, c'est un auditeur qui dit « Beckett, c'est l'émule du pape ». C'est joli, l'émule du pape. Hein.
Pierre Dac n'est pas mort.
Il a pris l'esprit d'assise. Alors ça, entre nous, dans les milieux traditionnalistes, quand on dit ça, c'est vraiment une injure grave. Le fait de discuter avec des sectes est un péché. Il y a une auditrice qui dit « J'espère que vous allez foncer chez votre confesseur ». Je vais vous dire, en confidence, si le péché le plus grave que j'ai fait cette semaine, c'est de donner la parole à nos amis de Juifs pour Jésus... Je crois que je peux encore m'en tirer. Mais à mon avis, j'ai fait des choses bien pires que celles-là. Seulement, comme ce studio n'est pas un confessionnal, je vous en dirai pas plus. Non, enfin, écoutez, il faut quand même raison garder. L'essentiel, me paraît-il, je sais pas si je vais pas dire une bêtise grave, l'essentiel, c'est quand même de permettre au vent de souffler, ne serait-ce que pour désembourber les esprits. Ou pour désembrouiller les esprits, Roger.
Oui, et aux gens de se faire connaître. Après tout, ce sont des relations publiques.
Voilà. Alors maintenant, on va parler de tout à fait autre chose. Non, Victoria, venez vous asseoir avec... Non, venez vous asseoir avec nous,
non,
mais...
Non, Victoria,
non. Non, pas du tout. Il faudra... Voilà, on a un problème de micro. Si vous voulez prendre ce micro-là, monsieur Duchalard, pour que Victoria vienne reprendre le micro qui lui revient, on réglera... On a un gros problème technique de fonctionnement du micro. Donc, je disais, on va changer complètement de sujet, donner la parole à monsieur De Filippi, qui vient nous présenter le dernier numéro de la Gazette des Uniformes. Si
oui, c'est un numéro hors série, c'est le deuxième numéro. Alors, sur les para-allemands.
J'en ai parlé très rapidement la semaine dernière, mais je pense qu'on peut en parler un tout petit peu plus longuement, enfin en 2, 3, 4 minutes, 5 minutes cette semaine. Est-ce que c'est pas un petit peu de la provocation de publier aujourd'hui, en ce moment, un numéro consacré aux parachutistes allemands dans la période 1937-1945, qui est une période, si je ne m'abuse, qui compte parmi les plus sombres de notre histoire.
De notre histoire, tout à fait. Non, je pense pas, parce que là, on étudie l'aspect historique. Bon, l'aspect historique de ce qu'ils ont fait, leur création, comment ça a été fait, les uniformes qu'ils ont portés, l'armement qu'ils ont eu. Et puis, c'est surtout vu sous un angle, d'une part historique, et puis ensuite uniformologique, où on étudie leur équipement, leur casque, leur armement aussi, les moyens logistiques, etc. Non, je pense qu'on reste...
Il n'y a aucune provocation.
Ah non, tout à fait.
Vous ne tombez sous le coup d'aucune loi.
Non. Ah oui, on est vraiment...
Sans aucun... Non, mais il faut que ce soit bien clair.
Oui, non.
En parlant ce soir dans l'émission, je ne risque pas d'aller en prison.
Non, non, aucun problème. Non.
Bon. Est-ce qu'il y a une caractéristique particulière, pour tout vous dire, voilà la question que je veux poser. Moi, j'ai l'impression que les uniformes allemands de cette période sombre ont été... pratiquement à l'avant-garde de l'uniformologie mondiale. On a la surprise de voir, je regardais l'autre jour chez mon excellent camarade Mathieu Huguenet, qui est un collectionneur d'armes et de pièces d'uniformes.
Un bon collectionneur.
L'expert de Minute.
Tout à fait.
Je regardais des casques et je vois je dis, mais où est-ce que vous avez trouvé ce casque? Pour moi, c'était un casque de la Deuxième Guerre, un casque allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Il me dit, c'est le casque nu. C'est le casque actuel des troupes de l'ONU, qui est la copie à peine améliorée des casques allemands de la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement. Oui, non, ils ont eu le talent, il faut bien le dire, de dessiner les grandes lignes de ce qu'a été l'uniforme, ce qu'il est pratiquement encore porté maintenant, au point de vue coupe, au point de vue fiabilité, textiles, matériaux employés, ils ont vraiment donné le là pour les armées à venir, et ça reste encore quelque chose de très moderne et de très...
Alors, y compris en ce qui concerne les parachutistes, dans les techniques, dans les uniformes, on voit par exemple que les pièces d'uniforme, par exemple, vous présentez une blouse de saut, vous appelez ça blouse de saut
43 en modèle Tan Water Marical.
Oui, c'est un peu...
Ça, c'est
oui,
des expressions techniques.
Oui.
Mais c'est très exactement la tenue de combat, la tenue camouflée des troupes...
De la guerre du Golfe.
De la guerre du Golfe.
Oui, oui, tout à fait.
Or, il y a 50 ans...
Oui, oui, non, ils ont été à la pointe pour tout ça. Ils avaient fait des études extrêmement poussées sur le...
C'est très mal.
Sur tout le camouflage.
Il est évident que c'est très, très mal.
D'où les problèmes qui sont arrivés
bien sûr,
après.
Non, ça, il faut quand même dire que notre appréciation est une appréciation négative.
Tout à fait.
Nous disons bien qu'il est quand même absolument intolérable et dramatique que ces gens-là aient eu 50 ans d'avance sur le plan militaire.
Exactement, oui, tout à fait.
Alors, donc, si on veut voir à quel point ils étaient ignobles, on achète ce numéro hors-série, numéro 2 hors-série,
voilà, oui.
Les parachutistes allemands, 1937-1945, heure sombre, Narvik, Eben Emel, Crète, Russie, Monte Cassino, Normandie.
Ah oui, ils ont tout fait.
L'uniforme,
oui.
L'équipement, ils étaient partout.
Oui, ils ont été partout. Ah oui, oui, là, ils ont rien loupé.
Tout. Enfin, vraiment, c'est répugnant. Mais il faut quand même savoir. Non, parce qu'on peut autrement. Si on n'a pas, on se souvient pas de ce qui s'est passé, on voit plus clair. Quoi. Donc il faut bien.
Tout à fait. Hein,
que ça soit bien clair. C'est pas du tout une apologie.
Ah non, pas du tout. Ah non. C'est une.
Bêtes, en fait.
Voilà, c'est un descriptif un peu sec même
sec,
parfois.
Mais parfois même largement désapprobatif.
On peut le dire. On peut le dire comme ça.
Alors maintenant, il y a également il y a le numéro traditionnel de la Gazette des Uniformes,
voilà.
La Gazette des Armes.
Des
pardon.
Armes, oui. L'autre revue.
Il y a des choses magnifiques comme. Par exemple, le fusil Kropatchek.
Voilà, des soviétiques. Voilà.
C'est une très 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 belle chose.
Très belle arme, très belle arme.
Pas confondant.
Belle arme, exactement. Ouais. Très belle arme.
Et dans le même, oui, c'est vrai.
Oui, oui, non,
en plus, c'est vrai qu'elle est très belle.
C'est vrai, non, c'est bien, belle, efficace. Oui, non, mais.
Ça tue.
C'était
les
gens sérieux.
J'ai remarqué que les armes russes tuent à peu près autant, enfin, les armes soviétiques. À peu près autant
on a pu constater ça, effectivement, on a pu arriver à cette constatation assez cruelle.
Les armes sont faites pour tuer.
Mais
il y a des armes des bons qui tuent des méchants, et les armes des méchants qui tuent des bons, c'est ça qui fait la différence.
Toute la différence est là, je pense, oui.
Je voudrais dire combien il est merveilleux de bélier ainsi, comme nous le sommes tous, dans la bonne foi.
Non mais ça c'est, tu crois, il faut, nous on est démocrates, donc il faut quand même que les choses soient bien claires.
Ça m'étonne de toi Serge, de dire nous on est démocrates, ça m'étonne de toi.
Oui, un aphorisme Madame Victoria.
Soyez prudent, les gens n'ont pas d'humour.
Voilà, exactement.
Donc, y a,
c'est dans mon livre.
De Monsieur Mine, bien entendu.
Soyez prudent, les gens n'ont pas d'humour, c'est vrai, c'est très très vrai. Donc vous me donnez une leçon, Victoria, je vais faire attention. Mais je n'ai pas beaucoup la parole. Vous savez, ça fait au moins 6 heures que je n'ai rien dit.
Donc, tu reviendras, je ferai une émission silencieuse. Il n'y a que toi
qui
parleras.
Ça m'étonnerait.
Alors donc, je rappelle, Gazette des Armes, qui vient de sortir, là, le numéro de septembre, qui est très très beau, avec des présentations de différentes armes, dont le fusil l'admirable fusil Kropatchek et le répugnant pistolet mitrailleur MP40.
On peut dire ça, la bonne foi,
c'est comme ça. Et puis, alors une question technique, Monsieur De Filippi, les parachutistes allemands avaient-ils un casque différent de ceux des autres armes?
Tout à fait, tout à fait.
Et pourquoi?
Simplement pour des histoires de quand on se reçoit au sol,
quand on tombe sur la tête,
quand on arrive au sol, il fallait qu'il ait une conformité qui ne soit pas comme l'autre pour pouvoir se recevoir et il a été étudié pour ça et c'est un objet très recherché en collection car il est rare et convoité.
Voilà, si vous aimez les armes, c'est-à-dire si vous avez une passion coupable
et les uniformes,
vous pouvez aussi lire lui ou Playboy, hein. Mais si vous préférez d'autres photographies, eh bien vous avez la Gazette des Armes ou la Gazette des Uniformes, c'est publié par nos amis de la Gazette des Armées des Uniformes.
Ah ben, oui.
Alors, je vais rappeler l'adresse parce que.
25
rue Bargue.
Dans le 15e, à Paris.
Le téléphone, c'est 40 61 97 67 pour tout renseignement, tous abonnements, etc.
Exactement.
Et c'est une fort belle revue. Je vais vous faire une confidence. Comme j'ai invité nos amis de la Gazette des Armées des Uniformes à cette émission plusieurs fois, ils m'ont fait la gentillesse de me faire un service. Je n'arrive pas à garder un seul exemplaire dans mon bureau plus de 2 jours. Il y a toujours une bonne âme qui vient me le piquer. C'est pas bon, Philippe. Bon, hein, Philippe se défend. Ah
ben, c'est bien, c'est une bonne.
Toujours en antenne.
Il n'en a volé que 3, dit-il.
Ah non, on n'est que 3.
Ah bon, on n'est que 3. Non, mais il y a les visiteurs.
Eh bien, ça fait plaisir. Voilà. Très bien. Merci.
L'AM-60 américaine n'est-elle pas inspirée d'une arme qui équipa exclusivement les Diables Verts à partir de 1943, nous demande le spécialiste, qui connaît la réponse, évidemment, il sait que c'est vrai.
Je pense pas être en mesure de lui répondre là comme ça tout de suite, mais il peut toujours nous écrire et on s'arrangera pour lui répondre tout à fait.
Merci. Alors, Gazette des Armes, Gazette des Uniformes, 25 rue Bargue,
dans le 15e à Paris.
Un auditeur dit, je voudrais que vous invitiez Mathieu Huguenet. C'est fait, il va venir très prochainement. Et puis un auditeur, ça je lis, j'ai pas l'habitude de lire les compliments, mais là je vais le lire quand même. Ah si, je vais le lire parce que, de temps en temps, hein. Félicitations à Serge de Bécage pour le courage qu'il a eu d'inviter ces personnes. Je ne sais pas de qui il parle. Je ne sais pas qui
il présente. Les personnes qui vendent des armes, là.
Alors maintenant, vite, on va parler d'une chose qui me paraît plus importante que tout ce qu'on a dit ce soir. Je le dis sans rigoler. C'est la troisième marche pour la vie qui va se dérouler le dimanche 26 septembre 1993 à travers Paris jusqu'à Montmartre. Et je me tourne vers... Étienne Duchalard et Alain Horry. Alors peut-être Étienne Duchalard d'abord.
Pour la troisième année consécutive, Renaissance catholique organise une grande marche pour la vie, pour lutter contre l'avortement.
Vous avez touché le mauvais micro, donc une fois de plus, là vraiment il va falloir, je vous en prie, si vous ne vous abonnez pas au Libre Journal, au moins envoyez un supplément de cotisation à Radio Courtoisie pour qu'on puisse acheter un micro qui fonctionne, parce que ça
ils
devient...
Ils sont en train de casser celui qui marche.
Non, il change de place.
Voilà. Au secours.
Alors, pardon Étienne Duchalard, vous avez la parole sur un bon micro, pendant que Monsieur Filippi, lui, prend le mauvais, mais comme il ne parlera plus, c'est pas gênant.
Oui, Renaissance catholique organise pour la troisième année consécutive une marche pour la vie, pour lutter et affirmer le crime d'avortement et lutter contre lui et l'euthanasie. Cette marche qui commencera par une messe à 11h au Bois de Boulogne, porte de l'Hippodrome, commencera proprement dit à 13h30 après la messe et le déjeuner qui seront pris sur place. Alors l'esprit de cette marche, c'est une marche qui est à la fois une prière et une protestation. C'est une prière à Dieu, car notre sol est taché du sang des innocents par centaines de milliers chaque année. Et donc c'est une prière, et c'est une protestation aussi, parce que c'est une affirmation, c'est le rappel par cette manifestation que l'avortement est un crime, et non seulement est un crime, est un génocide. Parce qu'un avortement est un crime, mais des centaines de milliers d'avortements, c'est un génocide. Le pape en a parlé en Pologne il y a un an et demi. Et donc cette marche pour la vie, qui est une des seules grandes manifestations contre l'avortement, devra se dérouler le dimanche 26 septembre. Et nous invitons tous les auditeurs et tous les hommes de bonne volonté à nous rejoindre pour permettre et espérer faire reculer ce crime abominable.
Merci Étienne Duchalard. Alain Henry, est-ce que vous croyez que... Vous allez me répondre oui, bien entendu, mais je vais donc formuler ma question autrement. Dans quelle mesure une marche à travers Paris de quelques milliers de personnes, c'est le mieux qu'on peut espérer, c'est vrai, et au maximum ça va être quelques dizaines de milliers de personnes, dans quelle mesure croyez-vous que ça peut faire bouger une politique gouvernementale et une politique mondiale de légalisation de l'avortement? Est-ce que vraiment vous croyez que c'est utile de participer à une marche comme ça?
Je crois, pour répondre à votre question, Serge Bekesh, que déjà participer à une marche comme cette troisième marche pour la vie, c'est déjà justement prendre conscience qu'il faut faire quelque chose, sortir du bois, passer le mur du silence qui concerne tous les problèmes de la vie dans notre pays. Et c'est que ça, c'est vraiment quelque chose qui s'éprouve, c'est-à-dire en participant à cette marche pour la vie, grâce à des banderoles, grâce à des slogans, grâce à des prières, grâce à des tracts que l'on diffuse, on peut effectivement toucher un public donc dans Paris, un week-end où... moi, je dois dire que c'est avec un réel plaisir que je participe à cette marche pour la vie, parce que passer, par exemple, place de Clichy avec des slogans du type « avorter, c'est tuer », je peux vous dire que les réactions sont visibles, sans être méchantes du tout, d'ailleurs. Mais on fait réagir. Et déjà, je veux dire, en participant à cette marche pour la vie, on témoigne de cette prise de conscience en refusant le complot du silence.
Alors, Philippe Varlet, comme toujours, apporte le...
je dirais, la note, le bon sens. Il dit, la question est idiote, il ne le dit pas, mais il le pense. Les soldats combattent et Dieu donne la victoire.
Tout à fait.
Je crois que c'est la meilleure réponse, effectivement.
Il faut voir comment, d'ailleurs, les partisans de l'avortement ont commencé. Ils ont commencé par des manifestations, petitement au début.
Et ils avaient
scandales.
Ils avaient des pétitions qui étaient signées par 300 personnes.
Voilà, c'était rien à l'origine. Et j'allais dire, c'est, comme disait Saint Pidis, c'est la faiblesse des bons, le manque de courage des bons qui a fait passer cette loi, sinon elle ne serait pas passée. Donc il faut absolument manifester, venir nombreux, et à partir de là on peut espérer dans le futur, parce que après tout nous sommes pas un petit groupe, nous sommes pas seuls ceux qui sont contre l'avortement. Il faut bien voir que en Pologne l'avortement est pratiquement interdit, n'existe plus. Il faut voir qu'en Allemagne, la Cour suprême de Karlsruhe a déclaré inconstitutionnelle la loi sur l'avortement qui libéralisait. Je dis, en Irlande, l'avortement est interdit et il y a des grandes manifestations contre l'avortement en Irlande.
J'entends
et en
bien.
États-Unis aussi.
Ce que je dis toujours, et ça c'est mon opinion personnelle, mais c'est pas du tout autre chose, c'est que une chose est d'interdire l'avortement ou une chose est de maintenir l'interdiction de l'avortement. Et puis une chose beaucoup plus importante, à mon avis, est de créer toutes les dispositions pour que l'avortement ne soit plus la seule solution.
Absolument.
Et ça, je crois que c'est ce dont s'occupent beaucoup des associations qui participent à cette troisième marche pour la vie. Alors je vais les citer, Renaissance catholique, Laissez-les vivre, SOS Futur Mère, Association médicale Saint-Côme et Damien, Jeune Chrétienté, Œuvre chrétienne de la Cité Vivante, SOS Tout Petit, Union féminine pour le respect et l'aide à la maternité. Je crois que c'est très très important de dire que cette manifestation n'est pas seulement une manifestation contre, c'est une manifestation contre l'avortement, mais c'est une marche pour la vie, c'est-à-dire Absolument. Pour l'organisation de l'accueil de la vie. Et qu'il ne suffit pas de... je dis toujours ça quand on parle de sujet à cette émission, parce qu'il y a souvent un malentendu. Il n'y a aucune condamnation des femmes. D'ailleurs, les femmes ne sont pas les seules concernées par ce sujet, évidemment pas. C'est aucune condamnation des femmes. Il y a au contraire la volonté de créer un mouvement, un effort qui permette d'organiser l'accueil des enfants, même non désirés.
Absolument. D'ailleurs, certaines associations s'occupent activement de ça. Chacune de ces associations qui luttent contre l'avortement et pour la vie ont des charismes propres. Et certaines, justement, ont créé des foyers pour accueillir ces mères en détresse et qu'elles puissent avoir leur enfant dans des bonnes conditions. Donc, absolument, il y aura un effort législatif à faire. Il ne s'agit pas non plus de prendre une loi pénale, mais un effort à faire au niveau social, au niveau législatif.
Ce que je vous propose, Étienne Duchalard, je vais y arriver, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour développer peut-être cet aspect des choses. Quelles sont les différentes associations et quelles sont leurs spécificités? Absolument. Pour l'instant, on rappelle que il faut, dans la mesure où vous participez à ce combat spirituellement, vous préparez le dimanche 26 septembre 93 à partir de 11h du matin à participer à la troisième marche pour la vie qui va se dérouler, c'est pas très long.
Marche qui est facile.
C'est une marche facile. Et elle va se passer du Bois de Boulogne au Sacré-Cœur avec plusieurs endroits où vous pouvez la retrouver, notamment Porte Dauphine et Place des Ternes au cours de la marche.
Et ceux qui voudraient nous aider financièrement dans l'organisation de cette marche peuvent nous envoyer leurs dons à Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130 à Issy-les-Moulineaux.
Merci. Et maintenant, on termine par un bouquet fleuri grâce à Cécilia Dem. Bonsoir Cécilia.
Bonsoir.
C'est une soirée d'EM, comme il s'en produit une fois par mois.
C'est la mafia d'EM.
Est-ce que là, on a reçu, oh la mafia, n'exagérons rien quand même, le gang tout au plus. Alors on a eu tout à l'heure Marc et puis on a le plaisir d'avoir Cécilia qui nous présente une rubrique qui est par définition anti-radiophonique, mais qui est quand même une jolie rubrique parce que, spécialement aujourd'hui, parce qu'elle est arrivée avec un invité, qui est arrivé, je dirais pas les bras chargés de bouquets, mais littéralement la camionnette chargée de bouquets, parce qu'il y a des bouquets somptueux et qui sont même qui développent des parfums tout à fait inattendus. Alors, ce studio d'un seul coup ressemble à une serre. On est même un peu oppressé, non, Roger? Un peu oppressé par les parfums?
Non, quand même pas.
C'est joli.
C'est plus joli que les trois messieurs qui parlaient de d'armes de guerre tout à l'heure. Je préfère les fleurs. On vient de...
Oui, enfin, les messieurs, c'est vrai que s'il fallait poser quelque chose sur ma cheminée, je préférais poser des bouquets plutôt que ces trois messieurs.
Je ne parle pas des messieurs, je parle des armes, bien entendu.
Merci pour les fleurs. Alors, bonsoir aux auditeurs. Et puis, ben, merci à Monsieur Piola, que nous allons présenter, et qui s'est fait précéder, effectivement, par les travaux de ses élèves, dont il va nous parler tout à l'heure. Alors, Monsieur Piola, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes là à plusieurs titres. Vous êtes administrateur de la SNHF, Société Nationale d'Horticulture, que nos auditeurs commencent à connaître. Vous avez un rôle aussi à Versailles, je crois, un rôle de créateur dans le Festival d'Art Floral. Pouvez-vous nous en dire quelques mots et nous passerons ensuite à Técoma?
Oui, alors l'activité, disons, d'amateur en art floral est très importante parce que je crois que nous pouvons dire que l'évolution de l'art floral en France depuis pratiquement maintenant 30 ans repose essentiellement sur le travail de particuliers, de personnes qui, à titre bénévole, essaient de diffuser, de faire avancer l'art floral en France. D'ailleurs, depuis une quinzaine d'années, l'art floral a assez profondément modifié. Il suffit de regarder à la fois les cérémonies où pourront participer les uns les autres, ne serait-ce qu'un cortège de mariage ou les devantures de fleuristes. Par rapport à ce que nous avons connu dans le temps passé, où nous avions le marchand de fleurs qui, dans un simple cornet, pouvait présenter la traditionnelle botte de rose ou d'œillet avec l'asparagus, voyons maintenant ce que ces dames ont amené au niveau du feuillage décoratif.
Vous venez de dire ces dames, pardon Cécilia, mais c'est un aveu quand même, parce que Monsieur Piola a un rôle important dans l'univers de l'art floral, mais quand il parle des créateurs ou des créatrices, il dit ces dames.
Ah, il a rendu un très joli hommage, c'était au mois de janvier que vous nous aviez amené vos élèves, je crois, rue de Grenelle, et il leur a dit, avant leur prestation, qui fut tout à fait sympathique, on en reparlera, il leur a dit, n'oubliez pas que c'est grâce à elles, il s'agissait de nous, c'est les dames, c'est grâce à elles que votre métier a évolué. Et nous avons été très très sensibles à ce compliment.
Oui, cher monsieur, effectivement, dans les clubs dits amateurs, mais amateurs très avertis, nous avons beaucoup de dames. Sur le plan professionnel, peut-être que nous en parlons tout à l'heure, personnellement, je regrette que les professionnels de la fleuristerie, de l'art floral, ne soient pas un peu plus masculins, car c'est un métier très dur.
Oui, il y a un bouquet là que vous avez apporté tout à l'heure. Il est impossible de le tenir dans une main féminine.
Qui pèse à peu près 87 kilos.
Oui, en plus, il est très lourd. Alors, Técoma, pouvez-vous nous définir ce nouveau
Técoma,
site?
Técoma, madame, vous connaissez un peu l'établissement. Le site Técoma veut dire centre de formation technique et commerciale pour l'agriculture et l'horticulture. En clair, les jeunes, qu'ils soient élèves, apprentis ou étudiants, viennent chez nous pour travailler soit la technique, soit le commercial. Commercial, pourquoi? Parce que nous sommes un établissement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et parmi les objectifs de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, nous avons la formation des ingénieurs, des cadres, des techniciens, des ouvriers, des collaborateurs d'entreprise. Alors, Técoma, on peut en parler longuement, mais enfin, je crois que ce qui intéresse aux amateurs, c'est surtout, aux auditeurs, excusez-moi, c'est surtout l'aspect technique des choses. Mais c'est un établissement important en effectifs élèves ou d'étudiants, 850 jeunes, garçons et filles, avec deux structures, l'une recevant des élèves à temps plein, pour en 2 ans ou en 4 ans les préparer au métier de l'horticulture, au métier d'aménagement du paysage. Et puis nous avons effectivement une assez grosse structure de formation supérieure, qui sont des formations commerciales, qui vont par exemple vers le commerce horticole, le commerce agricole ou l'agroalimentaire. Deux structures, donc la seconde est celle qui est très à la mode depuis quelque temps, mais que la Chambre de commerce nous dispensons depuis très très longtemps. C'est la formation par alternance, avec des séquences en entreprise et des périodes de formation à Técoma. Et dans cette formation alternée, nous avons entre autres la formation à l'art floral.
Voilà. Et vous formez essentiellement de futurs floristes.
Dans ce secteur-ci, madame.
Si j'ai droit à une question,
Cécilia,
puisque maintenant c'est le sujet obligatoire, hélas, c'est le sujet du marché de l'emploi. Est-ce qu'il y a des débouchés, comme on dit, dans cette profession, ou est-ce que c'est aussi sombre que alors, le reste de l'activité?
Dans la profession de floriste, avant déjà de vous répondre, je vais quand même vous dire que tous les jeunes qui réussissent à entrer chez nous après des tests de sélection sont des jeunes qui pratiquement toujours ont comme objectif leur installation. Ce sont des jeunes qui ne voient pas les emplois qu'ils tiendront à très court terme au niveau d'une collaboration avec un fleuriste ou un décorateur, mais qui te disent d'ici 5 ou 6 ans, bon bien, je pourrais m'installer. Et c'est assez vrai, il y a des possibilités, disons, relativement faciles pour s'installer. En ce qui concerne l'emploi, maintenant je vais répondre à votre question, nous avons, surtout en Ile-de-France et dans les grandes métropoles, beaucoup de demandes de professionnels, mais qui veulent des jeunes techniciens capables de répondre au profil de ce métier.
Et donc, vous développez des activités, des initiatives qui vous permettent d'orienter des jeunes vers des débouchés sérieux?
Oui, nous avons un portefeuille à Tecoma de maîtres d'apprentissage, de fleuristes, de professionnels suffisamment important quand même, nous sommes connus, qui permet au mois de juin de placer pratiquement tous les jeunes qui sortent de chez nous, sachant que nous considérons que c'est une obligation lorsqu'on est dans la formation des hommes, de les accueillir en formation, c'est bien, mais de leur trouver au moins le premier emploi.
Mmh, bien sûr. Et pour des jeunes qui seraient intéressés justement par ce métier qui est très beau mais très difficile, comment peuvent-ils s'adresser à vous? Peut-être un petit peu tard cette année pour la rentrée, mais
oui,
ce serait pour l'an prochain.
Les effectifs sont en place. Maintenant, plusieurs possibilités, madame. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons à Tecoma de nombreuses activités, dont une activité horticole. Activité horticole, donc, qui est destinée à former des jeunes garçons, des jeunes filles, vers les métiers de l'horticulture. Alors, à l'issue de leur formation, qu'elle soit à cycle court, à cycle long, mais nous en parlerons, ces jeunes peuvent rester en production ou peuvent, par la suite, s'orienter vers la commercialisation des produits ou vers la transformation des produits avec valeur ajoutée qu'est la floristerie. Alors, ils peuvent rentrer chez nous soit en fin de troisième, et aller vers un CAP, et ensuite ils peuvent poursuivre vers un brevet professionnel et un bac professionnel comme aide à service. Nous pouvons accueillir également des brevets de techniciens horticoles qui connaissent bien le produit, qui les maîtrisent bien, mais chez lesquels il manque à la fois la partie artistique, esthétique, et puis la partie commerciale.
Oui, alors vous avez comblé cette lacune dans ce plaignant en 1900, Albert Monmenet, qui était un célèbre écrivain et journaliste qui écrivait entre autres à la vie à la campagne, et qui écrivait à peu près ceci, malheureusement cet enseignement, l'art floral, n'est pas au programme des écoles d'horticulture. Peut-être cette lacune sera-t-elle comblée un jour. L'école d'horticulture de Gand, en Belgique, a créé cette section il y a 3 ans. Eh bien, Albert Monmenet serait très content aujourd'hui de voir les travaux de vos élèves.
C'est gentil, chère madame, mais dans les programmes officiels du ministère de l'Agriculture, puisque nous sommes rattachés à l'agriculture pour l'horticulture, eh bien, l'art floral est toujours oublié. Ceci dit, grâce à vous, j'ai appris qu'en 1900, un illustre auteur s'intéressait déjà à l'art floral. Je ne savais pas que le mot existait en 1900. Sachant qu'en 1900, il y avait très peu de fleuristes, on dit qu'il y en avait d'ailleurs 35 en France par rapport à aujourd'hui, c'est une progression absolument énorme. Alors, en ce qui concerne Tecoma, nous avons donc des jeunes qui suivent une formation horticole qui apprennent le produit ou la science liée à ce produit, puis qui peuvent très rapidement aller vers la floristerie. Mais effectivement, nous avons répondu à un besoin.
Alors, vous allez nous parler un petit peu de vos élèves, alors de ces élèves floristes, ceux à qui nous avons dit au mois de janvier, quand vous serez installés, donnez-nous vos adresses parce que nous avons besoin de bons fleuristes. Ils sont venus nous faire une démonstration pleine d'entrain, pleine d'invention. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de leurs travaux dont vous avez apporté quelques exemples?
Très bien, madame. Oui, effectivement, les élèves que vous avez rencontrés sur le podium de la Société nationale de l'agriculture de France au mois de janvier, je crois,
c'est ça, oui.
Bien, ont quitté Tecoma. Pour les garçons, beaucoup d'entre eux sont au service militaire. Et pour les jeunes filles, bien actuellement, elles sont toutes employés chez des fleuristes de la région parisienne ou dans les grandes villes de province. Alors ces jeunes ont accepté de jouer le jeu, on leur a dit écoutez, par rapport à un cours, vous considérez que sur ce podium, vous aurez affaire non pas à des spectateurs, mais simplement à des clients devant lesquels vous composez. Ce qui fait que d'une manière absolument décontractée, ils ont travaillé devant vous sur les sujets qu'ils avaient choisis, et je crois que tout le monde était heureux de cette soirée. Alors, en ce qui concerne ces jeunes, les jeunes qui ont travaillé devant vous, madame, préparez un brevet professionnel fleuriste ou un bac professionnel. Ces jeunes sont de recrutement et d'horizons très divers. Certains venaient de l'horticulture, d'autres directement de l'enseignement général, de classe terminale. Nous avions d'ailleurs des bacheliers qui préparaient un brevet professionnel. Et aux entretiens de recrutement, ces jeunes, comme je disais tout à l'heure, avaient tous l'ambition de créer leurs propres affaires. Alors, nous les modérons toujours, s'installer fleuriste,
très jeune, quand même, oui,
un petit peu d'expérience, un peu de recul, et puis sur le plan financier, quand même, une charge un petit peu lourde.
Et vous disiez surtout que ça vous paraissait difficilement compatible avec une vie de famille pour les jeunes filles, pour les femmes.
C'est-à-dire que nous regrettons toujours dans ce milieu de voir la majorité des élèves recrutés chez les jeunes filles. C'est une vieille tradition française, on est fleuriste, on est couturier. C'est un métier qui est quand même difficile, ce qui est un métier avant tout de commerçant de détail, comme confiseur ou pâtissier. Les horaires sont lourds. Nous travaillons uniquement de la matière périssable. Par rapport à d'autres métiers de bouche, le congélateur n'existe pas. La chambre froide, bien sûr, est utilisée, mais avec beaucoup de modération. Quand même un métier très pénible. Quant aux heures de travail, eh bien, en fonction de l'activité du magasin, de la clientèle, il faut bien répondre aux clients, même si... À 8h30 du soir, il demande le bouquet qu'il a oublié pour offrir à l'hôte qui a bien voulu l'inviter.
Alors, que va-t-il se passer au mois d'octobre à Tekoma? Vous allez célébrer quelque chose.
Ah, madame, vous êtes très, très bien informée. Oui, Tekoma est arrivé sur le site de Jouy-en-Josas en 1963. Donc, ça fait 30 ans. Et nous avons pensé, pour récompenser tous ceux qui ont bien voulu mettre sur le fonds baptismaux l'école d'horticulture Tekoma, eh bien, les réunir au cours de journées spécialement réservées pour le 30e anniversaire. Donc, dans chaque département pédagogique de l'établissement, nous allons monter des tables rondes sur l'horticulture, perspective, réalité, avec des grands ténors de la production et de la consommation. Et le tout, ensuite, sera terminé par un cocktail qui réunira 7 à 800 personnes.
Alors, le site de Tekoma, de Jouy-en-Josas, est assez exceptionnel. Vous êtes vraiment très favorisé de travailler dans un cadre pareil. Vous êtes très accueillant, d'ailleurs, puisque nous avons plusieurs fois eu la chance d'y être admises pour certaines activités. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette ambiance privilégiée dans laquelle vous allez travailler?
Oui, nous sommes bien choisis. Nous avons beaucoup de chance de vivre dans un domaine à la porte de Versailles, un domaine de 110 hectares, domaine aménagé à la demande de Louis XIV pour récompenser son premier docteur, le médecin d'Aquin. Et nous sommes dans un parc boisé avec des arbres très anciens, les arbres de l'Île-de-France, des chênes, des hêtres, etc. Et dans ce domaine, la chambre de commerce a pu implanter dans la nature des bâtiments relativement autonomes les uns par rapport aux autres. Je crois que les jeunes qui viennent à Tekoma, qui suivent une formation horticole ou d'art floral, sont très sensibilisés à ce spectacle de la nature.
Ils ont l'air heureux en tout cas.
Ils sont tous heureux, c'est très vrai. Et madame, vous avez pu observer que les plantations, les fleurs, les arbres, les gazons sont parfaitement respectés. Et sur ce plan-là, nous n'avons pas de discipline à surveiller ou à rectifier.
Bon, alors il ne nous reste plus qu'à vous remercier infiniment d'être venu nous apporter ce petit sourire ce soir et encourager vos élèves à poursuivre dans cette voie. Je peux faire deux ou trois petites annonces?
Mais bien sûr, attendez, dès que j'aurai posé cette question d'auditeur, dans la région parisienne comme dans le Midi, il est très difficile de trouver des jardiniers. Pourquoi ne pas faire une enquête auprès des maires qui ont des chômeurs dans leur commune
et qui aurait peut-être ainsi la possibilité de créer des emplois, comme le demande M. Balladur. Alors, est-ce que je pense que c'est tellement dans le cadre de vos activités ou de vos, de vos zones d'intérêt.
M. Piola a peut-être une idée sur la question.
Oui, le tout est de savoir ce que l'on donne au terme jardinier, monsieur. Si par jardinier on fait appel effectivement à une personne, garçon ou fille, ayant de solides connaissances en horticulture, en jardinage ornemental ou en production de légumes ou d'un fruitier, c'est bien. S'il s'agit de recruter l'homme toute main qui, de temps en temps, coupera le gazon, de temps en temps, lavera la voiture, ou emmènera madame faire ses courses, c'est effectivement plus difficile.
Ça
mais des vrais jardiniers, cher monsieur, effectivement, il y a quand même des possibilités de trouver par les organisations professionnelles qui siègent sur Paris.
Je subodore que cet auditeur évoquait la deuxième hypothèse.
Je sais un endroit où il y en a. En venant tout à l'heure ici, je suis passé à la salle Saint-Cloud. Il y a des parterres sur la route extraordinaires. Une symphonie d'or, de jaune, de rouge, d'orange, avec des petites pointes de bleu. Ce sont de vrais artistes.
Mais ça, ce sont des vrais jardiniers. Ce ne sont pas des messieurs qui emmènent la patronne faire les courses l'après-midi.
Voilà, c'est ça.
Alors, nous allons rappeler la manifestation de notre ami Daniel Pratt, qui est venu le mois dernier, à laquelle un auditeur a écrit. Elle en a été très touchée. Elle nous attend très nombreux, n'est-ce pas, à Castres, les 18 et 19 septembre. On peut toujours avoir des renseignements au 63 59 27 47, avec le 16 devant. Et Gérard, elle m'a demandé de rappeler à M. Piola qu'elle attendait ses élèves pour une démonstration. Elle trouve que ces Parisiens qui ne se déplacent pas en province ne sont vraiment pas très sympathiques.
Daniel Pratt, c'est une très bonne animatrice de Société d'Horticulture. La seule chose, c'est que sa manifestation, qui est formidable, qui est connue de toute la France, se situe toujours en pleine rentrée scolaire.
Voilà, c'est ça.
Il est difficile d'aller à Castres en septembre.
Difficile. En Allemagne, j'en parle parce qu'il y a une petite particularité, il y a un concours d'art floral les 25 et 26 septembre à l'île de Mainau, dans un cadre enchanteur sur le lac de Constance. Et j'en parle ce soir parce qu'il y a une catégorie réservée aux messieurs. Alors ça, c'est assez exceptionnel dans un concours d'art floral. Les gens qui se retrouveraient dans la région pourront passer voir. Et enfin, pour nos amis normands, tout à fait à portée de main pour eux, au château de Tour-la-Ville, près de Cherbourg, dans le cadre du Dahlia-Rama 93, Liliana Barrière et Solange Legras, qui nous ont promis de venir un soir pour nos auditeurs, vont fleurir le château, donc le château de Tour-la-Ville. L'inauguration a lieu demain et ça se tient tout le week-end prochain. Alors là encore, avec le 16 devant, renseignement au 33 51 09 76. Et puis je voudrais revenir sur le livre que j'ai présenté le mois dernier, parce que dans la bousculade, j'ai oublié de préciser qu'il était à un prix très abordable, c'est-à-dire un prix de 100 francs. C'est un livre très simple.
L'art du bouquet.
Voilà.
C'est chez Solar. Solar, c'est un éditeur formidable qui fait des livres magnifiques à des prix incompréhensibles.
Certains de nos amis reprochent d'être un petit peu simple, mais justement pour une première approche avec l'art floral, il est très bien. Les photos sont très belles, les croquis sont très clairs. Et je crois que quelqu'un qui veut s'initier peut commencer par ce livre-là avant d'aller un petit peu plus loin.
Voilà. Merci beaucoup, Cécilia.
Et bonsoir aux auditeurs, au mois prochain.
Au mois prochain. Alors, je voudrais maintenant évacuer d'un revers de main une légende. Ça fait quand même un certain nombre d'années que je connais Roger Mine, mais on m'a toujours dit il est impatient, c'est une espèce de brute, etc. Or, je l'ai soumis à une torture épouvantable ce soir, je l'ai fait venir, je ne l'ai pas laissé parler. Et vous avez vu, il ne m'a pas encore étranglé, ça va peut-être se passer après l'émission, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il est resté d'un calme olympien. Alors, je voudrais le remercier, et puis je voudrais lui dire que sa place maintenant est dans cette émission d'une façon régulière, parce que en fait, faire une émission tout seul, c'est une acrobatie terrible. Et c'est très bien d'avoir quelqu'un en face de soi. Alors j'ai Victoria qui est à ma gauche, qui me corrige, qu'elle me jette des regards de temps en temps, ou elle me reprend hors micro. Et c'est très agréable d'avoir quelqu'un en face de soi qui réagit. Alors il y a Philippe qui est dans la cabine technique, qui me fait les gros yeux quand je dis des bêtises. C'est-à-dire que pratiquement le soir, il est crispé de grimaces. Mais j'aimerais bien, Roger, que tu viennes de temps en temps
Oui,
pour
c'est une
parler
question,
plus que ce soir.
C'est une question de salaire.
Oui. De courtoisie.
Et on verra ça avec Jean-Claude.
Je crois que vous ne remboursez même pas un taxi. Tu sais, si j'étais, si j'étais invité chez Yvan Levaille, il me rembourserait son mon taxi quand
Parce
même.
Est-ce que tu cherches un taxi? Alors, je veux bien, peut-être qu'on pourrait demander aux auditeurs de se cotiser pour offrir une partie de la carte orange.
Il reste deux minutes.
Un, auditeur, un auditeur dit, pourriez-vous nous parler du cri de la chouette?
Oh.
Ah oui,
Roger, ouais. Vraiment, ça c'est lamentable.
Pourquoi? Tu crois que c'est ma petite amie?
Non, pas du tout, c'est un monsieur.
Ah oui, c'est alors pire. Ça ne peut pas.
Bon, alors ça exclut.
Je suis au-dessus de tout soupçon.
Voilà. Bon, ouais. Alors, non, le cri de la chouette, oui, mais dis un mot.
Le cri de la chouette est c'est la lettre du club de la chouette dont j'ai été bombardé président il y a quelques années. C'est un club de réflexion politique, philosophique et même métaphysique. C'est écrit dans le journal officiel, je ne connais pas par cœur, qui organise des colloques, des débats et des échanges de communication. Le cri de la chouette, il y a des amis dedans qui collaborent, il y a Marc Dem.
Ah oui, décidément.
Qui, dans les
articles, ils sont partout.
Ça s'appelle les fureurs de Marc Dem.
C'est très bon ce qu'il fait.
Il y a les clameurs de Philippe Gauthier.
C'est l'auteur de La Toussaint Blanche, un bon écrivain de la famille. Lui,
il y a une fille absolument déchaînée qui signe les douceurs.
De
Marie-Josée de Bravura, qu'elle soit les douceurs, alors vraiment elle exagère, c'est d'une brutalité incroyable. Elle fait un sort à Matisse. Matisse ne se relèvera jamais de ce que dit de lui Marie-Josée de Bravura. Et puis à la fin, il y a Roger Mine, les humeurs de Roger Mine, ça évidemment, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le cri de la chouette.
Je suis bien d'accord.
Mais la modestie m'empêche d'en parler.
D'en dire plus. Bon, le cri de la... Non, il faut quand même que tu donnes l'adresse et un peu plus de précision, bon, monsieur, alors... parce que les auditeurs qui voudraient lire... Si vous voulez, la différence essentielle entre le cri de la chouette et le Libre Journal de la France Courtoise, c'est que le cri de la chouette ne paraît qu'une fois tous les deux mois.
Oui.
Tandis que le Libre Journal paraît toutes les
tous et les décadère. Il est décadère. Comme disait l'affreux allégé, la malade abdécadère.
Voilà. Mais ça participe un peu du même, même esprit.
Eh bien, si on écrit au Club de la Chouette, CDLC, boîte postale 444 75 327 Paris CEDEC 07, on recevra le dernier numéro. Et voilà.
Alors, je sais que tu as plein de sujets rentrés. Je te demande de revenir dans 15 jours, ou la semaine prochaine à ta guise. Mais la semaine prochaine, ce sera bousculé. Donc, peut-être dans 15 jours pour qu'on ait un petit peu plus de latitude pour développer les sujets de l'actualité.
Oui, oui,
on n'a
oui.
pas parlé des paysans, par exemple.
Mais
je
oui,
crois
mais
que
j'ai beaucoup de questions, bah, mais oui. tant pis, on peut
non, pas. Non, mais je crois qu'on peut en dire un mot qui va naturellement déplaire à tout le monde. Je voudrais dire deux choses. Je suis absolument convaincu que c'est pas en emmerdant les Parisiens et que les paysans vont résoudre leurs problèmes, premièrement. Et deuxièmement, je crois que s'ils veulent emmerder les Parisiens, il faut vraiment qu'ils les emmerdent. Il faut qu'ils s'arrangent pour que ça marche. C'est la deuxième fois qu'ils organisent une manifestation, c'est la deuxième fois que c'est un bide total. C'est-à-dire que ça n'a absolument aucune conséquence sur la vie quotidienne des Parisiens. Donc quand on veut faire la révolution, on fait la révolution. Autrement, on reste chez soi. Et voilà. Je trouve ça consternant, cette espèce d'agitation ébriatique, si j'ose dire, qui ne sert à rien. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc là, tu as dit tout à l'heure que avec nos amis juifs pour Jésus, j'ai perdu 100 000 auditeurs.
Là, je dis ça hors micro.
Oui, mais je le dis officiellement maintenant.
C'est honteux de révéler publiquement.
Et maintenant, je viens de perdre les 100 000 autres. Donc, on avait 600 000 auditeurs. Et j'en ai perdu 200 000. Il m'en reste 400 000. Je voudrais bien, d'ailleurs, je le dis en passant, que 1% de ces auditeurs aient la bonne idée de s'abonner au Libre Journal de la France Courtoise en écrivant 68 rue David d'Angers, 75 019 Paris. Parce que si j'avais ne serait-ce que 1% de ces 400 000, ça ferait 4 000 abonnés. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour poursuivre les activités de cet admirable décadaire qui est vraiment... d'une qualité rare, n'est-ce pas, Victoria?
Admirable.
Elle
c'est
est obligée.
Le mot.
Un dernier aphorisme tiré
dernier
de
aphorisme
la nébuleuse.
Un dernier aphorisme, peut-être, juste pour ce que vous avez dit juste avant. Si vous croyez que ça ne sera pas répété, détrompez-vous. Si vous croyez que ça ne sera pas transformé, détrompez-vous. Si vous croyez que ça sera transformé à votre avantage, détrompez-vous.
C'est signé Roger Mine, et c'est dans ce merveilleux livre qui s'appelle Rumeurs sur Andromède, qui est paru chez Dominique Guéniaud, qui est un éditeur. Et voilà. Et je terminerai en disant, je ne suis efforcé que Dieu s'habitue à moi.
c'est encore du mine.
Rumeur sur Andromède est pratiquement épuisée en librairie, attention. Mais l'éditeur va procéder à un nouveau tirage. En attendant, il reste un certain nombre d'exemplaires numérotés. On peut envoyer un chèque de 100 francs à l'auteur Roger Mine, boîte postale 444, 75 327, Paris 07, que je répète, Roger Mine, boîte postale 444, 75 327, Paris 07.
Elle a une petite faveur pour Roger.
Non, mais moi, je suis président du fan club de Victoria.
Ah, oui, il y a ça déjà, puis il a tellement souffert pendant l'émission.
Merci, Roger. Alors, à dans 15 jours. Oui. Merci, Monsieur Piola.
Plaisir était pour moi.
Et merci, Cécilia.
Merci à vous.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, document d'archives du 15 septembre 1993, diffusé le dimanche 2 novembre 2014, dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.